Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures d'information, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir et à la une, l'effrayante cartographie des futurs impacts du réchauffement climatique en Europe, direction Bruxelles. Dans un instant, c'est à la une de votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, je vous emmène en coulisses au plus près des chercheurs qui pistent le coronavirus depuis maintenant près d'un mois. Nous serons à l'Institut Pasteur à Paris avec le directeur adjoint du Centre National de Référence des Virus Respiratoires, Vincent Hainouf, nous en ouvre les portes ce soir sur Europe 1. 19h30, on va parler encore de votre santé, mais autrement, vous pourrez questionner d'ailleurs Frédéric Salmann. Directement, il publie « On n'est jamais mieux soigné que par soi-même » aux éditions Plomb. C'est votre grand journal du soir pour écouter ensemble le monde changer. On s'élance jusqu'à 20h. Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Je vois le toit, il se soulève. Mais genre, il y a l'ombre qui vient vers la voiture et vers moi. Moi, j'ai eu peur, j'ai commencé à courir, j'ai crié, ouais, barrez-vous. Le toit, il s'envole.
Jusqu'à 177 km/h ces dernières heures dans l'Est. La tempête Kira a balayé la France. On a frôlé le pire lorsque les toits de 2 établissements scolaires se sont envolés.
Et ce n'est pas fini ce soir, c'est la Corse et les Alpes-Maritimes qui sont en alerte. Ce sera notre coup de fil.
Tempête, inondation, submersion. Et si ces épisodes étaient de plus en plus fréquents? Et là, tout près de chez nous, les experts de l'Agence européenne de l'environnement dévoilent le scénario de la fin du siècle.
Nous serons aussi en Chine où le président Xi Jinping est apparu, le visage protégé par un masque, lui aussi. C'est l'image du jour.
Il faut faire la guerre contre ce virus. C'est une guerre que nous devons mener tous ensemble. Et nous allons certainement la gagner.
Et on apprend dans cette épidémie que 4 Français se trouvent à bord du paquebot où 3700 passagers sont en quarantaine au Japon.
Produire des œufs en évitant l'abattage massif de poussins, Carrefour et Loué annonce un accord.
Et puis plus léger, les artistes français cartonnent à l'étranger. 2019, année record. Y'a pas moyen. Et oui, avec notamment le Jaja d'Aya Nakamura. La bourse de Paris ce soir en baisse de 0,23% à 6015 points.
Le ciel avec vous Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. La tempête Kira est encore très active et la nuit s'annonce très agitée, tout comme la journée de demain. 13 départements sont en vigilance orange actuellement. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Les alertes météo, comme celles que nous vivons aujourd'hui, seront-elles de plus en plus fréquentes à l'avenir? Tempêtes, inondations, submersions, sécheresses, canicules, incendies. C'est un nouveau signal d'alerte qui est paru aujourd'hui avec ses cartes très précises des futurs risques climatiques en Europe. Bonsoir Isabelle Horry.
Bonsoir Sébastien.
On vous retrouve à Bruxelles. Ce travail a été mené par l'Agence européenne de l'environnement et c'est très proche de nous. Hein. On parle de la fin du siècle.
Exactement, ces cartes dressent le portrait de l'Europe à l'horizon 2100 et il n'est pas très rassurant. Les scientifiques ont voulu utiliser toutes les données à leur disposition pour nous aider à visualiser ce que ça veut dire le réchauffement climatique, nous aider à comprendre comment il va affecter très concrètement la Bretagne ou le Sud par exemple. Il suffit de zoomer sur la carte. Alors prenons un exemple, la montée du niveau de la mer. Sur les cartes, vous pouvez découvrir plusieurs scénarios, explique Wouter van de Ville, c'est l'un des autres.
Quand on est le plus optimiste que possible avec zéro émission dès aujourd'hui, il y a une augmentation de 20, 40 centimètres, un demi-mètre. Dans toutes les autres situations qui sont un peu plus réalistes, ça augmente beaucoup plus pour l'année 2100 jusqu'aux 2 mètres en plus.
Voilà, et dans ce scénario du pire, eh bien, il y aurait au moins 500 fois plus d'inondations aujourd'hui qu'aujourd'hui à Dieppe ou à la pointe nord du Finistère. Et il faut ajouter les tempêtes hein, dont le nombre et la puissance va augmenter. En parallèle, dans le sud, sur une autre carte, on voit qu'on va faire face à un autre risque, les incendies de forêt. Si la température augmente de 4 degrés d'ici 2100, ça sera 40% de feux en plus. Et sur la carte, eh bien, la France est de plus en plus rouge. Alors précisons pour finir que cet exercice de géographie inquiétante n'arrive pas par hasard. L'Agence européenne veut appuyer les efforts de la Commission européenne qui a fait du pacte vert pour le climat sa grande priorité. Bruxelles espère s'appuyer sur les citoyens pour faire adopter des législations ambitieuses.
Isabelle Horry en direct de Bruxelles, merci à vous. Venons-en maintenant, Sébastien, à la tempête qui nous touche en ce moment même et qui a provoqué d'ores et déjà des dégâts sur le tiers nord de la France.
Et là, c'est très concret, hein, essentiellement des arbres arrachés, tombés sur les voies de chemin de fer ou les lignes électriques. Il y avait toujours à la mi-journée près de 100 000 foyers privés de courant. Le trafic aérien aussi a été perturbé. Au final, la tempête Kiara n'a fait qu'une vingtaine de blessés légers.
Et dans les Vosges, le toit d'un collège et celui d'une école ont été complètement emportés.
Pierre Herbulot, bonsoir. Vous êtes
bonsoir, Sébastien,
sur place
bonsoir à
Saint-Dié. Scène très impressionnante hein, et on est passé tout près d'un drame.
Oui, à un petit mètre même, c'est ce qui sépare le toit au sol de la voiture dans laquelle sont Ounia, Charlotte et Alicia.
Je vois le toit, il se soulève, mais genre il y a l'ombre qui vient vers la voiture et vers moi. Moi j'ai eu peur, j'ai commencé à courir, j'ai crié ouais, barrez-vous. Le toit il s'envole.
En fait ça fait un gros bruit comme un arbre qui craque quoi.
J'ai carrément fermé les yeux pour pas voir la scène. Hein.
Comme souvent, les trois copines se rejoignent hier soir sur le parking derrière l'école pour discuter. Par crainte d'un arbre qui tangue, elles se décalent légèrement de leur place habituelle. C'est ce qui les a sauvées.
En fait, nous on s'est mis là, on avait juste peur des arbres juste devant nous, mais on pensait pas que le toit il allait se décrocher quoi.
Mais jamais de la vie j'aurais pensé que le toit il allait se décrocher quand même.
Devant l'amas de béton et de tôle complètement tordue, aujourd'hui les filles plaisantent.
Juste avant, je disais pas faire la gueule aux gens, la vie elle est courte. Jusqu'à ce que ça se décroche, j'ai flippé.
Mais elles sont toujours un peu sonnées.
Non, vraiment, j'étais en panique, je me suis vue mourir. J'ai fait une crise d'angoisse, j'ai fini à l'hôpital. Non, les pompiers m'ont pris.
Après, on était sous le choc, on n'a pas trop réalisé. Même encore là, on réalise pas, je pense.
Un miracle. C'est le bon Dieu qui était avec nous, monsieur. Voilà.
Le groupe s'en sort avec une peur bleue et un gros déficit de sommeil, mais sans la moindre égratignure.
Voilà, le récit signé Pierre Herbulot, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Dié-des-Vosges.
Très expressive, hein, cette jeune fille.
Ce soir, ce sont les côtes de la mer du Nord, de la Manche et toute la pointe bretonne qui reste en alerte, risque de vagues, de submersion et d'inondation. Les vents violents, eux, vont frapper ce soir les Alpes-Maritimes et la Corse.
C'est notre coup de fil du 18h. Bonsoir François Ravier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le préfet de Haute-Corse. À quoi faut-il s'attendre ce soir sur l'île de Beauté ?
Depuis 14h, nous sommes en vigilance orange et au moins jusqu'à demain soir, 21h. Ce soir, sur Bastia et la région bastiaise, on devrait avoir des vents au moins jusqu'à 160 km/h et possible jusqu'à 200 km/h.
Ça va durer toute la nuit ?
Alors, ça va durer toute la nuit. Ça commencera à faiblir demain, en fin d'après-midi sans doute, sans que le phénomène d'ailleurs ne cesse complètement. On s'attend pas à une fin de phénomène avant mercredi en fin de matinée.
Les deux départements de Corse sont en alerte ce soir. Quelles sont les consignes que vous donnez aux habitants de l'île ?
Alors, tout d'abord, préciser qu'il n'y a pas de bateau à quai, il n'y aura pas de rotation demain des bateaux. Les avions à destination de Calvi, les trois vols d'aujourd'hui ont été détournés sur Bastia. Et ce soir, à partir de 18h, il n'y aura plus de vols au départ ou à l'arrivée de Bastia. A priori, la reprise, on espère une reprise possible des vols en fin de matinée demain, mais c'est à confirmer, bien entendu. Les consignes qu'on peut donner actuellement, bien entendu, c'est éviter autant que possible les déplacements, bien entendu, ne pas s'abriter sous les arbres, respecter, bien sûr, les déviations mises en place et l'ensemble des consignes données par les services de sécurité.
Un mot juste des écoles et des transports scolaires, parce que c'est pas encore l'heure des vacances chez vous.
Pour demain, on a une suspension des transports scolaires, ainsi d'ailleurs qu'une interdiction de circulation pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Pas de transport routier de passagers, tout ça pour la journée de demain.
Merci beaucoup François Ravier, préfet de Haute-Corse, de nous avoir répondu ce soir depuis Bastia.
Plus loin de la métropole, là c'est un potentiel cyclone qui menace la Nouvelle-Calédonie, pré-alerte déclenchée. Et puis sur l'île de la Réunion, le Piton de la Fournaise s'est réveillé, c'est l'un des volcans les plus actifs de la planète. La dernière éruption remontée au mois d'octobre dernier.
Il est 18h07, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
On vous parlait ces derniers jours de cette croisière infernale au Japon. 3700 passagers d'un paquebot en quarantaine à cause, toujours et encore, du coronavirus.
Et nous apprenons ce soir qu'il y a des Français à bord. Ils sont 4, 3 passagers et un membre d'équipage sur ce navire où environ 130 personnes ont déjà contracté le virus.
En Chine, c'est la fin des congés du Nouvel An, ça y est. Et donc une semaine à haut risque qui s'ouvre.
Et car jusque-là, les grandes villes étaient désertées. Elles vont peu à peu reprendre vie, augmentant ainsi le risque de voir l'épidémie se propager. Et dernier bilan, 900 morts en Chine. Aujourd'hui, c'est le président chinois qui a montré l'exemple. C'est l'image du jour. Xi Jinping, visage recouvert d'un masque. Sébastien Lebelzik est à Pékin pour Europe 1.
Sous les hurrahs d'une foule au garde à vous, Xi Jinping est pour la première fois depuis le début de l'épidémie sorti de Zhongnanhai, la résidence des chefs d'État chinois. Costume sombre et masque de protection sur le visage, il s'est rendu dans un hôpital du nord de Pékin où il s'est adressé par vidéoconférence aux médecins de Wuhan, lançant un appel à la mobilisation.
Il faut faire la guerre contre ce virus. Il faut que l'on ait 100% confiance en nous. C'est une guerre que nous devons mener tous ensemble et nous allons certainement la gagner.
Une visite surtout symbolique alors que beaucoup s'étonnaient de la discrétion du chef de l'État. Son pays traverse pourtant une crise sanitaire sans précédent et cette semaine est cruciale. C'est la fin officielle des congés et des millions de personnes vont rentrer chez eux. Pour éviter les contaminations, des postes de surveillance ont été installés à l'entrée de tous les quartiers. Il s'agit de mettre en quarantaine tous ceux qui seraient passés par Wuhan et sa province ces trois dernières semaines. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et ce soir, Donald Trump prédit que l'épidémie s'éteindra au mois d'avril à cause de la chaleur.
Voilà, Donald Trump sur tous les terrains, décidément. Et puis restez avec nous, dans un instant nous irons dans un endroit très secret au sein de l'Institut Pasteur à Paris, dans le laboratoire qui diagnostique le coronavirus. Ils sont à pied d'œuvre maintenant depuis près d'un mois. Son directeur adjoint Vincent Hainouf sera mon invité à la fin de ce journal.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Vous avez peut-être vu ces images, ces poussins que l'on élimine par millions dans les filières de production d'œufs. La grande distribution commence à trouver des solutions, c'est à suivre.
Avec aussi bien plus léger les artistes français qui cartonnent le plus à l'étranger.
Deux heures d'infos, c'est votre grand journal du soir, tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Ce sont des images dont vous vous souvenez peut-être et qui choquent systématiquement ces poussins que l'on élimine par millions en France chaque année et qui finissent broyés.
Oui, broyés dans les filières de production. De bonsoir François Geffrier.
Bonsoir.
La grande distribution commence à trouver des solutions pour éviter ça. Carrefour vient de signer un accord avec le producteur de poulet loué.
Oui, il y a plusieurs méthodes développées par des entreprises et des chercheurs notamment allemands et aussi français. Dans tous les cas, c'est du sexe. Autrement dit, réussir à savoir si c'est un futur coq ou une future poule qui se trouve dans l'œuf. La technique que vont utiliser Carrefour et Loué fait appel à la spectrophotométrie, une caméra spéciale qui parvient à détecter à travers la coquille de l'œuf de quelle couleur sont les toutes premières plumes du poussin au 13e jour d'incubation. Plumes plutôt blanches ou jaunes, ça ce sont les mâles. Plumes plutôt brunes, ça ce sont les femelles. Les œufs de futurs poussins mâles seront détruits. Quant aux femelles, futures pondeuses, donc, on verra leurs œufs à elles dans les rayons à partir du mois de mai. Une boîte de 6 œufs pour 1,89€, le label filière qualité Carrefour. Alors 1,89€, ça fait même pas 2 centimes d'euros d'augmentation sur chaque œuf. Ce secteur, en tout cas, a une vraie pression politique sur les épaules. Le gouvernement lui a demandé de mettre fin au broyage des poussins d'ici 2021. Carrefour vise une production annuelle de 7 millions d'œufs de poules pondeuses ainsi sélectionnées. Un vrai pas est donc franchi, même s'il faut comparer cela aux 14 milliards d'œufs qui sont produits chaque année en France.
François Geffrier du service économie d'Europe 1, merci à vous. La politique ?
La politique et la guérilla qui continue à l'Assemblée sur la réforme des retraites. À peine moins d'un quart des 22 000 amendements déposés ont pu être examinés en commission. Les socialistes, eux, réclament désormais une commission d'enquête pour lever des doutes, disent-ils, sur la sincérité de l'étude d'impact de la réforme.
Et aujourd'hui, des dégradations ont été commises au siège du géant américain de la finance, BlackRock. Des militants écologistes et anticapitalistes ont fait intrusion dans les bureaux de son siège parisien.
La petite Vanille, pour qui une alerte enlèvement a été lancée ce week-end, est bien morte, étouffée par sa mère, qui a reconnu avoir prémédité son geste. C'était le jour de son anniversaire. Elle sera présentée à un juge demain, à l'issue de sa garde à vue.
Plus léger maintenant et à quelques jours des victoires de la musique, voilà enfin une bonne nouvelle. Et oui, nos artistes français ont la cote, ils rayonnent à l'étranger.
Et la musique française qui dépasse les frontières 2019, année record, 121 artistes ont dépassé le seuil du disque d'or à l'étranger. Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir.
Il y en a une notamment qui cartonne, c'est elle, Aya Nakamura.
Et oui, Aya Nakamura était numéro 1 des ventes aux Pays-Bas avec Dja Dja. Et c'était la première fois depuis Edith Piaf et nous étions en 1961. Et oui. Mais il y a aussi Jane et son titre Lil Mama qui est devenu viral en Asie. La chanteuse cartonne aussi outre-Atlantique. Elle a l'avantage de chanter en anglais. Et au début de sa carrière, elle a vécu plus d'un mois aux États-Unis pour tenter d'y percer. Autre raison de ce succès, les plateformes de streaming où il n'y a aucune frontière. Cette année, une vingtaine d'artistes rejoignent la liste des chanteurs qui cartonnent à l'étranger. Zaz, avec sa dégaine de Titi parisienne, a vendu 500 000 exemplaires de son album qui lui correspond bien, appelé Paris.
Voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière.
La musique électro reste le genre le plus exporté. David Guetta en tête, suivi des musiques urbaines, puis de la pop comme Christine and the Queens ou encore L'Impératrice. Ils seront même cette année au prestigieux festival américain Coachella. Agitation tropicale, créature astrale.
Voilà, c'est l'avantage aussi des plateformes de streaming. Il n'y a plus de frontières.
Exactement.
Et on écoute ce qu'on veut. Merci Angèle Châtelier, spécialiste musique.
Et les femmes sont en bonne place.
Tout à fait.
Merci beaucoup Angèle. On va se parler des victoires de la musique. C'est vendredi, on aura l'occasion d'en reparler déjà demain, notamment avec on vous réserve une petite surprise, notre invité. Merci Sébastien Krebs, à tout à l'heure. Anissa, du côté du temps, ça souffle, on l'a repéré, on est vigilant et ça pleut aussi.
Exactement, c'est le programme de cette tempête Kira qui touche la France maintenant depuis 24 heures. 13 départements sont placés en vigilance orange pour vagues submersion, pour crues inondations et vent fort, notamment sur la Corse. Alors le vent va souffler très fort ce soir, cette nuit sur la Haute-Corse, on vient d'en parler dans le journal, sur le Cap-Corse, avec des pointes jusqu'à 150-200 km/h cette nuit. Sur le littoral méditerranéen, le Var et les Alpes-Maritimes seront également touchés par ce vent fort. Alors, il va se calmer ce vent demain matin au lever du jour avec des rafales à 80 km/h sur le littoral méditerranéen. Sur la moitié nord du pays, après le vent, demain, c'est le grésil qui vous attend au programme avec beaucoup d'averses et un temps très nuageux. Et puis attention aussi sur les côtes normandes, les côtes bretonnes, le vent continue de souffler à 110 km/h demain. Sur les des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central. Pour les vacanciers, c'est la bonne nouvelle. Oui. Il neige demain, c'est avec toujours encore du vent. Les températures 4 à 7 degrés dans la moitié nord demain matin, 7 à 11 au sud.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre invité.
Oui, on va rentrer dans un petit instant. On va pousser les portes du laboratoire ultra confidentiel au sein de l'Institut Pasteur à Paris. C'est là que des chercheurs travaillent quotidiennement depuis près d'un mois sur les tests de détection du coronavirus. Vincent Hénoux, son directeur adjoint, a répondu à mes questions. Il était avec moi dans deux minutes.
Et votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, maintenant direction un endroit ultra secret au sein de l'Institut Pasteur à Paris. C'est la cellule qui détecte ou pas l'infection du coronavirus. Nathalie, vous recevez ce soir le directeur adjoint du Centre National de Référence des Virus Respiratoires de l'Institut Pasteur, Vincent Hénouf.
Bonsoir Vincent Hénouf.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous ouvrez les portes ce soir en quelque sorte du Centre National de Référence des Virus Respiratoires de l'Institut Pasteur. À ce jour, 11 personnes contaminées en France. Combien êtes-vous, vous, dans ce centre? Combien êtes-vous de scientifiques à travailler depuis le début de cette épidémie?
Alors, le nombre de personnes qui travaillent maintenant sur le nouveau coronavirus a nettement augmenté, mais en tous les cas, dans les premiers temps, sur la période de capacité de mise en place d'un système de détection et surtout de détection des premiers cas, on était à peu près une dizaine au Centre National de Référence.
Vous avez été rejoint, c'est-à-dire que vous avez demandé du renfort?
Alors, on a demandé du renfort de la part de la cellule d'intervention biologique d'urgence. Et puis, à partir du moment où on a détecté les premiers cas et qu'on a isolé le virus, eh bien, des thématiques de recherche se sont mises en place. Il y a une task force à l'Institut Pasteur qui s'est mise en place de telle manière à travailler dans différents domaines tels que la vaccinologie, la sérologie, pour pouvoir justement avancer dans ces domaines le plus rapidement possible.
Alors venons-en au virus. Comment vous parviennent, expliquez-nous le cheminement, les prélèvements ou échantillons suspects sur lesquels vous allez ensuite travailler?
Alors, à partir du moment où est basée une suspicion, des prélèvements sont effectués sur la personne. Ce sont des prélèvements qu'on dit dans un premier temps respiratoires, des prélèvements nasopharyngés ou un petit peu plus profonds comme des liquides bronchoalvéolaires par exemple. En tous les cas, ces prélèvements nous parviennent dans des tubes qui se trouvent dans des petits cartons qui représentent en fait un triple emballage. C'est tout un système de protection et ce sont des transporteurs agréés donc qui nous apportent ces prélèvements. Ensuite, vous avez une étape de préparation de cet échantillon de telle manière à ce qu'on puisse travailler dessus de manière non dangereuse. Et ensuite, il y a plein d'étapes, justement, enfin plusieurs étapes de préparation du génome du virus s'il est présent dans cet échantillon, de telle manière à ce qu'on puisse le détecter ensuite.
Mmh. Aujourd'hui, à quelle fréquence vous parviennent ces prélèvements? Est-ce que ça s'est accéléré ces jours-ci? Est-ce qu'ils arrivent uniquement depuis la France?
Alors, je dirais qu'à l'Institut Pasteur, ça ne s'est pas accéléré, puisque dans le sens où on a donné la technique, enfin diffusé la technique, que les laboratoires aussi ont commandé eux-mêmes différentes techniques, de telle manière à pouvoir aussi détecter dans plusieurs régions françaises maintenant le virus. Ils sont en capacité de le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on va, si on était amené à découvrir d'autres suspicions, enfin en tous les cas qu'elles soient positives, on recevrait uniquement les résultats positifs. Mais on reçoit quand même un certain nombre de suspicions, c'est à peu près une dizaine par jour actuellement.
Une dizaine par jour. À partir du moment où vous les avez, de combien de temps avez-vous besoin pour dire si une personne regarde ces échantillons est oui ou non contaminée?
Donc il nous faut à peu près 4-5 heures pour être en capacité de dire si le prélèvement est positif ou négatif pour ce nouveau coronavirus. Mais dessus, on détecte aussi, on recherche d'autres virus respiratoires pour pouvoir répondre aux médecins que, par exemple, la personne est infectée par une grippe. Car actuellement, il faut le dire aussi, c'est que l'épidémie de grippe s'installe en France et qu'on a davantage de personnes grippées actuellement.
Oui. Vous nous avez expliqué le transfert de ces tests et autres prélèvements, échantillons, dans des cartons bien spécifiques. Vous, justement, avec vos équipes, comment travaillez-vous? Dans quel type de sécurité?
Alors, on travaille dans des sécurités plus élevées que d'habitude, c'est-à-dire qu'on se trouve toujours dans un laboratoire de type de sécurité type 2.
C'est-à-dire?
Et on s'habille. Alors, deux, c'est-à-dire que vous avez une pièce dont l'air peut rentrer, mais ne peut ressortir qu'une fois filtré. Donc, c'est la protection de tout ce qui vous entoure. Et dans cette pièce, vous avez aussi des postes de sécurité microbiologique qui permettent de protéger évidemment le prélèvement, mais surtout le personnel, qui lui-même est protégé par des doubles gants, une combinaison intégrale, des lunettes.
D'accord.
Et ce sont des combinaisons et des précautions que l'on prend habituellement dans des laboratoires de type 3, avec un niveau de sécurité supplémentaire.
Alors les précautions, j'imagine qu'elles sont prises aussi dans les gestes de vos techniciens. Ça doit être très précis, au millimètre près. Là, ça prend. On a une dose de fatigue qui fait qu'à un moment, on ne peut plus manipuler ces échantillons. Comment ça se passe au quotidien ?
On est une équipe de professionnels, donc le personnel est complètement habitué à travailler dans ces conditions. C'est-à-dire que tout au long de l'année, déjà, on a des suspicions de MERS-CoV qui nous parvenaient ou alors de H5N1. Et donc, à chaque fois, on reprend les mêmes conditions. C'est comme si on faisait un rappel sur les bonnes précautions, les bonnes manipulations. Mm-hmm. Et puis, il faut savoir aussi que les conditions dans lesquelles on travaille sont les conditions de tous les jours, en fin de compte. Donc, le personnel est très habitué à travailler là-dedans, dans ces conditions. C'est du personnel donc hyper qualifié, comme je viens de le dire. Mm-hmm. Et donc, et en plus, on a la chance à l'Institut Pasteur d'avoir des conditions de travail optimales pour pouvoir travailler en toute connaissance de cause et en sécurité.
Avec néanmoins, j'imagine, un rythme extrêmement soutenu, compte tenu de ce virus.
Alors, en effet, actuellement, donc, ça fait maintenant à peu près 3 semaines qu'on est sur le pont, quasiment tous les jours. Et donc, on fait attention aussi à ce que le personnel puisse se reposer un peu, de telle manière à toujours être en capacité de travailler. Il faut savoir aussi que dans la journée, tous les matins, est organisé le travail de chacun, dans le sens où si une personne fait une extraction, par exemple, de génome, cette personne ne pourra pas préparer les milieux réactionnels, etc. etc. Ouais. Donc il y a toute une logistique qui est visée tous les matins, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de contamination inter-échantillon.
Mmh. Alors, quand le virus est dans l'échantillon, analysé, quelle est ensuite la procédure ?
Alors, à partir du moment où on aura détecté un virus dans un prélèvement, le premier qui sera prévenu, ça sera le clinicien, ça sera la personne en charge du malade qui sera prévenu. Et ensuite, la Direction Générale de la Santé et Santé Publique France.
D'accord. Outre les nouveaux échantillons que vous recevez quotidiennement, comment suivez-vous les prélèvements des malades français infectés ? On est à 6 à ce jour.
Tout à fait, on est à 6. Enfin, plus les 5, mais qui sont pas hospitalisés. Là, si on parle des 6 qui est hospitalisés, donc il y a eu un grand nombre de prélèvements effectués, que ce soit des prélèvements respiratoires, mais pas uniquement, des prélèvements de sang, de sel, d'urine, de telle manière à mieux connaître ce virus. Aujourd'hui, on se pose des tas de questions sur est-ce qu'on retrouve, on détecte ce virus dans le sang, est-ce qu'on le retrouve dans les selles, est-ce qu'on le retrouve dans les urines, et suivant là où on peut le retrouver, eh bien, il faut mettre en place des mesures barrières de telle manière à éviter sa diffusion. Donc, dans un premier temps, en effet, sa méthode primaire, c'est la diffusion aéroportée. Donc, ça va être lorsque vous toussez et qu'une personne en face de vous va inhaler les postillons, enfin, en tous les cas, les particules virales, vous allez tomber malade. Mais aujourd'hui, on se pose la question aussi, est-ce qu'il y a un passage dû au fesses ? Donc, il y a toutes ces questions qui restent posées et surtout combien de temps la personne va excréter le virus, en tous les cas chez qui on va le détecter. Oui. Est-ce que cette personne, une fois guérie, est-ce qu'on détecte toujours le virus ? Et est-ce que si on le détecte toujours, est-ce que c'est un virus qui est capable d'infecter une autre personne ? Toutes ces questions restent posées et le fait d'avoir ces 6 cas hospitalisés, en tous les cas en surveillance, eh bien, nous permet d'avancer sur la connaissance du virus.
À ce stade, toujours pas de traitement efficace. Est-ce mauvais signe ?
Non, les traitements efficaces, c'est un virus respiratoire. Vous savez que pour la grippe, il n'y a pas tellement de traitements efficaces quand vous êtes, en bonne santé au départ. C'est-à-dire que on va traiter la fièvre, on va traiter la symptomatologie. Mm-hmm. Après, s'il y a des complications, vous êtes hospitalisé, là, il peut y avoir une utilisation d'antiviraux, par exemple, qui peut être aussi utilisée en médecine générale, mais c'est moins fréquent. Sur le nouveau coronavirus, des essais sont en cours pour vérifier si des molécules déjà connues, déjà des antiviraux, pourraient agir sur ces patients, sur cette maladie.
Un mot du port du masque chirurgical, la pénurie se fait sentir en France en pharmacie. Est-il capable d'éviter la contamination entre humains ?
Alors le masque chirurgical peut empêcher, si vous voulez, la personne malade qui le porte va limiter, en fait, le masque chirurgical va limiter la diffusion des postillons, des particules virales. En revanche, porter un masque chirurgical dans un contexte où il y a d'autres malades ne vous protège pas parce que sur les côtés, en fin de compte, quand vous allez respirer, vous avez la possibilité d'inhaler des particules virales.
Depuis un mois et l'apparition de ce coronavirus, la France réagit-elle à la mesure de l'événement ?
Donc depuis le début, tous les corps d'État scientifiques sont sur le pont. Donc la réflexion se fait au fur et à mesure du temps par rapport à toutes les informations que l'on possède. Et on peut dire aujourd'hui, en effet, qu'on pratique de manière mesurée les méthodes barrières qui doivent être utilisées contre ce virus.
Merci beaucoup Vincent Hénouf de nous avoir accordé quelques minutes aujourd'hui depuis le laboratoire de l'Institut Pasteur. Merci infiniment.
Merci, au revoir.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec la suite du programme, Nathalie Lévy.
Avec le débat des grandes voix au programme ce soir, le Premier ministre Édouard Philippe à la conquête de la mairie du Havre, la réforme des retraites à l'épreuve de la France insoumise et puis opération calinothérapie. Emmanuel Macron qui reçoit demain les membres de la majorité pour apaiser les esprits.
Et vous pouvez débattre avec les grandes voix et les interpeller dès maintenant au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Rien ne laissait présager une telle issue, se défend le président du conseil départemental. Après la mort de la petite Vanille, un an, tuée par sa mère lors d'un droit de visite ce week-end à Angers, l'autopsie confirme qu'elle l'a étouffée le jour de son anniversaire, geste qui était prémédité, précise le procureur. On y revient dans le journal de 19h. Des dégâts mais peu de victimes, une vingtaine de blessés légers, des arbres et des toitures endommagés, la tempête Kiara continue de balayer la France. Les vents violents frappent ce soir les Alpes-Maritimes et la Corse. La grève va toucher la SNCF lundi prochain. Les cheminots de Force Ouvrière rejoignent l'appel déjà lancé par 4 syndicats de la RATP contre la réforme des retraites. En Irlande, après le Brexit, la très forte poussée du Parti Républicain en législative, le Sinn Féin, longtemps considéré comme la branche politique de l'IRA, arrive en tête devant les deux grands partis qui se partagent habituellement le pouvoir. Le nouveau patron de Renault, encore mieux payé que Carlos Ghosn, 1,3 million euros de fixe annuel pour Luca de Meo, mais jusqu'à 6 millions d'euros selon les performances. Et puis cette avancée sur la fin de vie, les médecins généralistes pourront bientôt se procurer et administrer eux-mêmes un puissant sédatif, le midazolam, aux patients qu'ils prennent en charge à domicile. L'agence du médicament a levé les derniers obstacles.
Merci beaucoup Sébastien Prex. Retour de l'info 19h, un journal complet avec vous. Du côté du ciel, Anissa, la tempête Kiara qui reste très active dans les prochaines heures.
Oui, effectivement Nathalie, la nuit s'annonce très agitée. Je vous rappelle que 13 départements sont placés en vigilance orange pour vent fort, crues, inondations et vagues submersions dans le nord-ouest. Alors attention cette nuit sur l'île de Beauté avec cette tempête Kiara qui va apporter des vents jusqu'à 200 km/h sur le Cap Corse. Sur le littoral méditerranéen et les Alpes-Maritimes, là aussi ça va souffler fort. Et puis demain matin, sur la moitié nord de la France, on aura encore du vent et de la pluie avec même du grésil au début de la journée. Les températures, 3 degrés à Nancy demain matin, 6 pour Paris, Lille et Clermont-Ferrand, 10 à Toulouse et jusqu'à 14 degrés demain matin à Nice.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Nathalie, autour de vous ce soir, Gérard Carrérou, Alix Bouyaguet, rédactrice en chef à France 2 et Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bienvenue à tous les trois dans ce studio. On passe une demi-heure ensemble et à chaque partie, j'aimerais bien qu'on aille sur un sujet différent si vous le voulez bien. Il y a bien entendu les retraites, on va y venir. Un zoom sur Édouard Philippe et puis opération calinothérapie autour d'Emmanuel Macron demain. Alors commençons par le commencement, le match parlementaire s'était lancé, l'examen de la réforme des retraites a démarré cet après-midi en commission à l'Assemblée. Quelques 22 000 amendements, c'est un record sous cette législature, déposés sur ce projet contesté. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, était ce matin sur Europe 1 l'invité de Sonia Mabrouk. Écoutez ce qu'il disait.
Ce que veut faire la France insoumise, c'est pas un débat parlementaire, c'est un hold-up démocratique. Le droit d'amendement, il est constitutionnel. Mais quand 17 personnes présentent le même amendement à la virgule près pour faire de l'obstruction, pour rattraper dans la rue ce qu'ils ont perdu dans les urnes, ça s'appelle de l'obstruction et c'est un hold-up démocratique.
19 000, effectivement, pour les 17 élus de la France insoumise, parce que vous nous rejoignez pour la première fois, et peut-être la prochaine, j'espère, Alix Bouyaguet. Je me tourne vers vous. C'est de l'absurdité, comme l'a dit Marc Fesneau.
Oui, on peut dire que c'est une certaine forme d'absurdité. En même temps, l'obstruction, c'est vieux comme le monde. Hein, et en l'occurrence, c'est totalement assumé par Jean-Luc Mélenchon. C'est une stratégie politique de prolonger autant que possible le mouvement de grève dans la rue, voilà, d'aller jusqu'au bout du procès. C'est vrai qu'aussi, il se venge un peu. Il y a quand même 29 ordonnances dans ce projet de loi qui coupe un peu, qui empêche les parlementaires de saisir totalement du sujet. Donc, c'est vrai qu'ils font durer le plaisir en sachant que chaque député va avoir 2 minutes par amendement pour le présenter. On peut imaginer qu'à la fin, le chrono, ça va coûter cher.
44 000 minutes, ça fait beaucoup.
44 000 minutes, ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, la majorité, ils savent très bien, Alexandre Malafaï, Gérard Carrérou, qu'il n'y aura aucun cadeau sur ce texte-là, que de toute façon, ça va être une bataille vraiment chaque seconde et indéfiniment, j'allais dire presque.
Ben, vous savez, les batailles politiques, elles se passent ou bien dans la rue, avec tous les risques que ça... Là, ça a été des manifestations, mais ça peut aussi être des violences dans la rue. On l'avait vu au moment des Gilets jaunes. Ou alors, elles se passent dans le cadre démocratique qui est prévu à cet effet, c'est-à-dire les chambres du Parlement. D'abord l'Assemblée nationale, ensuite le Sénat. À partir du moment où le gouvernement a voulu aller très vite et a demandé la procédure accélérée, il était, je dirais, assez logique qu'une partie de l'opposition se lance dans une bataille d'obstruction parlementaire. Et moi, ça ne me choque pas. Je ne pense pas que l'expression de hold-up soit adaptée. Ce n'est pas du tout un hold-up. C'est effectivement la réponse du berger à la bergère. Et puis, regardez les parlements anglo-saxons. On appelle ça le filibustering. Et c'est très courant. Il y en a qui lisent la Bible pendant des heures et des heures, nuit et jour, etc. Bon, ça fait partie... C'est légal, c'est dans le code de l'Assemblée, et il n'y a aucune raison pour qu'on s'y oppose.
Bah oui. Crispation assurée, Alexandre Malafaï, ça va durer, il va y avoir amendement sur amendement, peut-être la menace du 49-3.
On verra, en tout cas, s'il y avait hold-up démocratique, c'était il y a 2 ans et demi, quand Emmanuel Macron a été élu, c'est même lui qui l'avait un jour concédé, je crois, cette fameuse formule. Non, mais bien sûr que ça va être une bataille, mais cette bataille-là, il vaut mieux qu'elle ait lieu à l'Assemblée. Mmh. Elle devrait d'ailleurs durer 50 jours. Mmh. C'est mieux que de voir les rues bloquées, les trains bloqués, les métros bloqués. C'est là que ça doit se passer, le vrai débat démocratique. C'est pour ça que quelque part, qu'on se plaigne qu'il y ait des exercices de contre-pouvoir, je trouve ça absurde de la part d'un gouvernement qui est censé se présenter comme étant légitime. Après, oui, ça va durer. Ça peut se terminer par un 49-3. On ne voit pas les issues aujourd'hui. Parce que de toute façon, globalement, on va avoir cet examen de texte en commission spéciale qui n'aboutira à rien. Donc après, on va passer dans l'hémicycle. Comme de toute façon, le volet financier n'est pas pour l'instant traité puisqu'il fait l'objet d'une discussion par avec les partenaires sociaux, c'est finalement au Sénat que les choses vont vraiment se passer, ça va revenir à l'Assemblée. Enfin, très sincèrement, là encore, on l'avait déjà dit ici, mais on est quand même assez perdu sur le sens de ce qui est en train de se passer dans cette réforme des retraites.
Alors, Gérard disait, ça va se passer dans l'hémicycle, mais pas seulement, parce que dans la rue, ça va continuer. On sait que jeudi, de nouvelles manifestations sont annoncées, ensuite lundi d'après, pour réclamer toujours encore le retrait du projet. Ça a encore de l'impact, Alix Bouyaguet ?
Ce qui se passe en ce moment dans la rue, oui, on va dire que c'est un accompagnement. Je ne pense pas que ça ait un réel impact, parce que le projet de loi, il est quand même sur les rails. Même si, effectivement, il devait être voté le 3 mars, à mon avis, ce sera très compliqué. Ce qui est aussi amusant, c'est de voir, au-delà de la France insoumise, comment chaque parti utilise ce match à l'Assemblée. Les LR, ils en ont déposé 1100, donc ce qui est un peu minable si on compare aux 19 000 de la LFI. Mais eux, ils ont décidé de décliner à travers chacun de leurs amendements, leur projet alternatif. Donc il y a quelque chose, pour le coup, d'un petit peu construit. Ils savent d'ores et déjà qu'eux, ils voteront éventuellement les articles qui seront potentiellement compatibles avec leur idéologie, mais qu'en revanche, pour l'instant, la décision sur le vote global du texte n'est pas encore prise. Le RN, eux, 65 amendements seulement, devrais-je dire, sauf que dans chaque amendement, c'est une opposition stricte au texte, c'est-à-dire qu'ils disent, ils demandent de supprimer chaque article du texte. Voilà.
Oui, mais chacun a sa méthode. Mais au fond, tout le monde, enfin je parle tous ceux qui font cette bataille d'amendements, ont en commun une idée force, c'est essayer d'éviter que le texte soit voté avant les municipales. Or, les municipales, je le rappelle, pour ceux qui l'ont déjà oublié, c'est le 15 mars, et le deuxième tour le 22 mars. Et quelque part, ça sera une défaite. S'il y avait conjonction entre une sévère défaite de la majorité actuelle au municipal, conjuguée avec l'impossibilité de faire passer, ça donnerait effectivement une situation politique un petit peu différente.
Alors justement, ces municipales, on va en parler dans un petit instant avec vous, en zoomant sur Édouard Philippe, qui commence, ça y est maintenant, les voyages entre Paris et Le Havre. À tout de suite.
Europe 1, il est 18h40. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h, c'est le débat des grandes voix, Nathalie, avec autour de vous ce soir Alix Bouyagui, rédactrice en chef à France 2, Gérard Carrérou et Alexandre Malafaille, président fondateur du think tank Sinopia.
Et on observe, ça y est, les allers-retours qui vont démarrer pour Édouard Philippe entre Paris et Le Havre. Ça a commencé avec une campagne aux élections municipales qu'il veut discrète pour ne pas être accusé de délaisser Matignon, n'est-ce pas Gérard Carrérou? Il va falloir se la jouer fine, en quelque sorte, pour Édouard Philippe.
Ça ne peut pas être trop discret. Quand on est Premier ministre, ça se voit quand on se déplace ou quand on fait une initiative ou un discours. Donc effectivement, il affecte la discrétion, mais enfin, il fera une campagne normale. Mais ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la Ve République, que je suis depuis je ne sais combien, 50 ans, c'est toujours ou bien ça va bien du côté du président et du Premier ministre, bon, dans ce cas-là, ça va, ça baigne, ou bien ça va mal pour les deux, et dans ce cas-là, on se dit qu'est-ce qui va pouvoir nous sortir de cela, ou alors c'est le jeu, l'un va bien et l'autre va mal. Or, on est un peu dans cette situation où vraiment, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais le président va mal actuellement, pour des tas de raisons, et du coup, le Premier ministre donne dans ce mal, le Premier ministre donne l'impression d'aller plutôt bien. Il est toujours à peu près sur la même ligne, il s'énerve pas, il porte pas de t-shirt, etc. Bon, il rassure assez bien la droite sans inquiéter trop la gauche. Donc, pour l'instant, il apparaît comme l'homme fort de cette petite période.
Voilà, et en plus, Alexandre Malafaille, Alix Bouyagui, il joue la carte de la politique locale, ce qui manque considérablement en Macronie.
Oui, enfin là, il va chercher l'onction de légitimité sur le terrain. Très bien, mais les Français s'y trompent pas. Pardon, il ne se met pas en risque. Les dés sont pipés. S'il gagne, de toute façon, il ne restera pas maire puisqu'il continuera de Premier ministre. Et s'il perd, il sera toujours Premier ministre. La mise en risque est égale à zéro. Donc si vous voulez, si vraiment il voulait aller chercher les Français et montrer qu'il s'impliquait réellement...
Mais quand même en termes d'image, pardonnez-moi, mais au Havre, le Havre n'est pas acquis à sa cause. Parce que regardez la réforme des retraites. Là-bas, ils ont clairement bataillé contre et pour cause, les marins.
Dans ces cas-là, pardonnez-moi, si vous voulez, compte tenu de l'état de délitement de l'opinion et du manque de confiance, si vraiment vous voulez montrer que vous vous engagez et que vous mettez votre tête sur le bio, vous la mettez vraiment. Voilà, et vous prenez vos risques. Si c'est pour aller faire semblant d'eux, occuper le terrain, faire de la com, se rapprocher et puis au bout du compte, n'en tirer aucune leçon parce que de toute façon, même si on est battu, on continue à gouverner, pardon, je pense que les gens ne sont pas dupes et c'est ce qui risque de se passer et ça ne fera que renforcer un peu plus la fracture entre les Français et les gens qui nous gouvernent.
Vous êtes d'accord, Alix Bouyagui?
Non, moi j'ai compris qu'il était un peu plus bravache que ça. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une règle qui s'imposait aux ministres. S'ils étaient battus, il pouvait rester au gouvernement, mais qu'en revanche, cette règle ne s'appliquait pas à lui-même.
Il l'a dit, mais bon.
Il l'a dit, effectivement, s'il est battu, il quitterait Matignon.
Il a dit, j'en tirerai les conséquences pour Matignon.
Oui, mais enfin, on peut, sous texte, se dire que normalement, il partirait de Matignon. Après, je pense qu'il est bravache, mais qu'il maîtrise un petit peu l'environnement et les risques. Il a été élu il y a 6 ans avec 52% des voix au premier tour. Là, j'imagine que il envisage, et il le dit lui-même, un deuxième tour, un second tour, mais qu'il a suffisamment d'indices concordants lui permettant de penser qu'il ne joue pas son poste à Matignon sur ce coup-là.
Non, mais il y a un risque quand même. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alexandre.
C'est très bien, allons-y.
Il dit les dés sont pipés. Je crois quand même qu'il y a un risque. Parce que Le Havre, c'est une ville qui a été une ville longtemps, une ville de gauche, une ville avec un maire communiste qui s'appelait Duroméa. Qui a été là pendant je ne sais pas combien, 25 ans, enfin, et très longtemps. Et c'est une ville qui s'est embourgeoisée peu à peu. Et effectivement, on l'avait vu avec le prédécesseur du Premier ministre, c'est-à-dire M. Ruffnac. C'est une ville qui s'est embourgeoisée. Il y a une vraie bourgeoisie du Havre. Disons, la droite et les centristes, bon, il les aura largement pour lui. Alors, est-ce que le choc, le contre-coup de la réforme des retraites, des grèves, etc., feront monter la gauche, les adversaires en général, sûrement. Mais de là, s'il était battu, alors là, pour le coup, s'il était battu au deuxième tour, il ne sera peut-être pas élu au premier tour. Mais s'il était battu au deuxième tour, ça serait un cataclysme quand même.
Au premier tour, c'est sûr que non. Moi, je suis prêt à parier avec vous ce soir.
Il a de la chance, c'est que l'opposition est visiblement en ordre un peu dispersé, donc ce qui pourrait lui faciliter un peu le travail.
Est-ce qu'il est devenu incontournable aujourd'hui, Édouard Philippe, au-delà de cette candidature au municipal? Parce qu'on parlait d'un remaniement sitôt après les municipales, pour mai-juin. Désormais, on en parle quasiment pour septembre, voire plus. Il est l'homme fort aujourd'hui?
Disons qu'on voit qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron doit procéder à un remaniement, même sur des postes subalternes ou moins visibles que le Premier ministre, il a beaucoup de mal à trouver les remplaçants. Le banc de touche est compliqué à trouver.
C'est grave parce que les présidents qui, à un moment donné, renoncent à changer... Il y a eu un moment, par exemple, dans la présidence Giscard, où Raymond Barre était devenu éminemment impopulaire. Il avait fait des tas de choses, mais il était impopulaire. Et Giscard a songé à le remplacer, et puis finalement, il ne l'a pas fait. Et du coup, il a été battu à la présidentielle. Il y a des cas comme ça où, effectivement, Sarkozy...
Nicolas Sarkozy et
Sarkozy,
François
absolument,
Fillon.
Absolument, vous avez raison.
Alexandre,
ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on voit bien quand une équipe se met en place, il y a un côté vivier. C'est-à-dire que vous prenez plein de risques et vous avez plein d'occasions de voir entre ce qui se passe à l'Assemblée, au Sénat, dans les grandes villes, dans les régions, au gouvernement, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe au bout de deux ans et un peu plus? Le vivier qui a été mis en place en scène entre ceux qui sont partis, ceux qui ont été remis de côté, ceux qui ont des casseroles, y compris parfois au perchoir de l'Assemblée nationale, comme les petites choses qui couvrent. Voilà, et combien ce sont en plus, après ceux qui sont au gouvernement, combien se sont illustrés pour dire ils sont très bons? On peut les lister. Ou en tout cas, qui ont révélé des vraies capacités. Jean-Michel Blanquer, indéniablement, en tout cas, a l'air de porter, de maîtriser. Gérald Darmanin, voilà. Il y a des gens comme ça. Bon, Bruno Le Maire, Bruno Le Maire n'est pas du tout consensuel, comme peut être, par exemple, Jean-Michel Blanquer.
Alors, on va se retrouver dans une petite seconde. On va regarder quand même en Macronie, là, dans le détail, parce que demain, opération câlinothérapie à l'initiative Emmanuel Macron, la semaine dernière, a été compliquée.
Europe 1, il est 18h49. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Gérard Carrérou, Alix Bouyagué, rédactrice en chef à France 2 et Alexandre Manafaille, président fondateur du think tank Sinopia.
La semaine dernière a été compliquée, une période difficile pour la majorité présidentielle qui s'est cristallisée jeudi dernier avec, et bien sûr, le cas de l'allongement du congé pour un enfant décédé. Du coup, réception demain. Emmanuel Macron reçoit l'Élysée pour apaiser les esprits. Moi, je me pose la question d'une grande messe comme ça avec les courtisans habituels. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour resserrer les liens?
Disons que ça ne peut pas être une mauvaise stratégie de recevoir, de faire effectivement de la câlinothérapie, de s'intéresser à la vie de ce parti, qui est un parti un peu artificiel. Quand même des gens qui viennent de partout. Il y a la jambe droite, il y a la jambe gauche. On voit qu'il y a des dissensions, on voit que ça part un peu dans tous les sens. Et je pense que Emmanuel Macron, s'il veut être président en 2022 et concourir à nouveau, il va devoir vraiment s'y pencher sur le parti et sur la manière dont il peut parler d'une seule voix, parce que c'est vrai que là, ça devient un petit peu compliqué.
Une grande messe, Gérard Carrérou, comme ça. Oui, est-ce que c'est le bon format, là
Je ne sais pas si c'est le bon format, mais il est urgent. Dans l'état où est, à l'heure actuelle, la popularité du président de la République dans son propre groupe parlementaire, dans sa propre majorité, il était urgent de faire quelque chose. Alors, on peut discuter de savoir si c'est la meilleure solution. Encore que les gens sont toujours contents d'aller faire un tour à l'Élysée, de boire
une réception pour apaiser les esprits.
Interpeller le président, etc. Ouais. Ça donne quand même un label. On fait partie des happy few, de la nomenclatura qui gouverne le pays, etc. Bon, tout ça, donc, c'est un côté. Mais parce que les députés, moi j'en ai rencontré quelques-uns là, il y en a beaucoup qui parlent toujours sous l'anonymat, mais si on donnait leur nom, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui considèrent qu'il les a poignardés carrément, qu'au fond il leur a lancé l'accusation « vous manquez d'humanité ». C'est-à-dire, au gros, vous êtes des égoïstes, vous êtes... Et ils ont pris ça, ils se sont dit, mais enfin, on nous avait dit de faire comme ça, on a suivi, et maintenant on se retourne contre eux. Donc ils lui en veulent. Ils lui en veulent beaucoup. Alors bon, Ça ne veut pas dire qu'ils feront la fronde comme ils avaient fait pour Hollande.
Comment éviter les frondeurs? C'est vraiment ça le sujet aujourd'hui. Hein. Alexandre Malafaï, Gérard le disait, ils n'ont pas compris, ils se sont fait, j'allais dire, tenser. Là, il y a de plus en plus de dissidences, il y a des départs aussi, on en a vu encore la semaine dernière. Et là, bah, du coup, réception pour ramener tout le monde dans la famille.
C'est encore une des recettes de l'ancien monde. Hein. C'est partie de la panoplie des solutions qu'on utilise dans ce genre de situation. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment une capacité de sabotage ou d'autodestruction dans cette République En Marche qui est assez fabuleux quand même, parce que globalement, ils se font du mal tout seuls. Hein. C'est ni les événements extérieurs, ni la pression de la concurrence ou des autres partis. Ils se font ça tout seuls. C'est assez fascinant, donc il faut arriver à sauver les meubles. Je ne sais pas si c'est possible, mais ce qui est vrai, et je rejoins ce que dit Gérard Carrérou, je crois qu'il y a vraiment un avant-après humanité. C'est-à-dire que là, il a une espèce d'hôpital tout d'un coup qui se fout de la charité, quoi, qui donne des leçons à tout le monde, alors que pendant 2 ans, tout le monde lui a reproché ses postures jupitériennes, ses distances, son manque d'empathie, d'humanité, ses petites phrases blessantes, cassantes, humiliantes, etc. Et puis tout d'un coup, il se passe un truc qui n'est pas de son fait, pour le coup. Hein. Il n'a rien fait. Bon, il y a une maladresse, c'est ballot, ils n'ont pas bien mesuré le poids de la conséquence, ils ne sont pas posé les bonnes questions, il y a un peu d'amateurisme encore dans cette équipe gouvernementale. Et tout d'un coup, il faut qu'ils se sentent bons de rappeler à tout le monde qu'il y a des valeurs dans ce pays et que lui, il est le garant de tout ça. C'est sûr que ça ne peut pas passer. Alors donc demain, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bah, ils vont essayer de remettre un peu de sens à cette perspective, faire un peu sans doute de jeu de pression, et puis de rappeler la vieille politique. C'est attention, il y a des échéances. Si vous ne faites pas le job, en 2022, bah, vous serez tous au chômage. Ouais.
Vous savez que, juste, ça va peut-être être le petit bout de la lorgnette, mais Cédric Villani est dissident. Il est invité quand même demain.
Oui, mais il a dit qu'il ne pouvait pas.
Il a dit qu'il ne pouvait pas, bah, évidemment.
Il a eu une réunion.
Il a eu une réunion. Non, mais on se demande quand même si c'est effectivement Emmanuel Macron n'a pas l'air de mettre les choses au clair. Il l'a fait la semaine dernière.
Vous savez, on le dit ça pour le pape, mais c'est un peu vrai aussi pour les présidents sous la 5e. Le président, il doit être à peu près infaillible. Bah. Et bah là, il est extrêmement faillible. Et il va falloir qu'il fasse un mea culpa.
Et,
oui.
Les signes ne sont pas clairs quand même.
Et puis il est un peu paradoxal. C'est-à-dire que de temps à autre, quand il faut trancher, couper des têtes éventuelles, écarter, ramener uns, il ne fait pas le boulot. Donc il a un côté un peu velléitaire dès lors qu'il faut faire preuve d'une certaine forme d'autorité.
Et en même temps, un patron, ça
doit en faire preuve de temps à autre.
Voilà. Merci beaucoup à vous, les grandes voix du lundi. Merci Alix Bouyaguet, Alexandre Malafaï, Gérard Carrérou. Merci à vous.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le journal de 19h, Sébastien Krebs, avec la tempête Ciara qui s'étend à la Corse désormais.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir avec dans la prochaine heure, Nathalie.
Alors à 19h10, le rendez-vous politique de votre grand journal du soir, la très attendue conférence nationale du handicap qui s'ouvre demain à l'Élysée. Quelles attentes? Aurélie Herbemont pose la question à Aurélien Pradier, député du Lot et secrétaire général des Républicains. Et nous, demain, toute la journée sur Europe 1, nous dédierons notre antenne à cette conférence nationale du handicap avec un grand forum, entre autres, dès 18h20 avec un certain nombre d'associations et vous le verrez, d'invités. Demain en France, demain dans le monde, c'est 19h20. On regarde vers demain sur Europe 1. Et puis à 19h30, si on devenait notre propre médecin, c'est le pari du docteur Frédéric Salmann. Un livre pour tout maîtriser, connaître son corps, anticiper les situations à risque, les comportements nocifs, poids, stress, hygiène, sommeil, dans tous les registres. Il nous donne des clés, Anissa, oui. Il nous donne des clés.
On va les noter.
On devient notre propre toubib. Grâce à lui, on lui pose donc toutes les questions qui vont bien. Et puis à 19h45... Nina Simone, Feeling Good, l'incroyable Nina Simone à l'honneur ce soir sur Europe 1. Pour en parler, l'auteur d'une pièce de théâtre sur la vie de Nina Simone, en tournée dans toute la France.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy sur Europe 1. Très belle soirée, il est 19h.
Je reste enfermée chez moi, j'ai tout fermé. Franchement, j'appréhende un peu pour ce soir.
La tempête Ciara balaye la France. Prudence ce soir, c'est la Corse et les Alpes-Maritimes qui sont en alerte au vent violent.
La mère de la petite Vanille avait prémédité son geste. Elle a étouffé sa fille le jour même de son anniversaire.
Des Français en quarantaine, bloqués sur le paquebot coincé au Japon à cause du coronavirus. Témoignage dans quelques secondes. Et puis Donald Trump qui parade en meeting dans le New Hampshire à la veille de la primaire démocrate.
Anissa, le temps.
Il va falloir faire très attention dans les prochaines heures à la tempête Ciara qui est encore très très active avec notamment sur la Corse et les Alpes-Maritimes des vents violents. On attend entre 150 et 200 km/h en rafale le vent sur le Cap Corse. On vous donne tous les détails de ces 13 départements placés en vigilance orange à la fin du journal.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Y a-t-il eu des dysfonctionnements pour qu'une mère souffrant de troubles psychiatriques obtienne un droit de visite pour voir sa fille d'un an et l'assassine le jour de son anniversaire? La mort de la petite Vanille, âgée d'un an, donc ce week-end à Angers, continue de susciter beaucoup de questions. Rien ne laissait présager une telle issue, se défend le département. François Coulon, vous êtes sur place. Le procureur vient aussi de confirmer que la mère avait bien prémédité son geste.
Oui, Nathalie Stéphane a clairement planifié l'assassinat de sa petite Vanille et ce n'est pas son incapacité à prendre en charge son enfant qui l'a conduite à ce geste fatal, mais simplement un changement de son propre mode d'hébergement. Quelques jours plus tard, elle devait quitter le centre maternel où elle résidait. Ce vendredi, jour de l'anniversaire de Vanille, la maman emmène sa petite fille en poussette dans un parc public d'Angers. Il est aux alentours de 14h. Elle va discrètement l'étouffer avec un ruban adhésif. Un drame quasiment imparable pour le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard.
Il n'y a pas eu de négligence de l'aide sociale à l'enfance puisque les faits se sont produits à un moment où le droit de visite de la mère, encadré, réduit, se produisait. C'est-à-dire à un moment où la mère était libre d'être avec sa fille.
Vous dites que c'était un drame imparable ?
Alors c'est un drame que peu d'éléments nous permettaient d'éviter, oui.
Nathalie Stéphane devrait être mise en examen demain matin pour homicide volontaire aggravé et placée en détention préventive.
Les précisions depuis Angers pour Europe 1 de François Coulon.
Des vents très violents qui continuent de balayer la France. La tempête Kiara a laissé des dégâts derrière elle, Sébastien, dans le nord et l'est déjà.
Essentiellement des arbres arrachés, tombés sur les voies de chemin de fer ou sur les lignes électriques. Il reste ce soir 40 000 foyers sans courant, vient d'annoncer Enedis. Des toitures aussi se sont envolées, notamment dans les Vosges. Au final, une vingtaine de blessés légers seulement.
Mais prudence, les vents se déplacent vers le sud. Désormais ce soir, les Alpes-Maritimes et la Corse sont en alerte. Flavien Groyer.
Oui, de puissantes rafales secouent actuellement le nord de la Corse. Des vents à 143 km/h à l'Île-Rousse et jusqu'à 197 km/h à Cagnano. Mais cette nuit, en Haute-Corse, on pourrait atteindre, voire dépasser les 200 km/h. Marie Anto habite la région de Balagne. Elle s'est barricadée chez elle.
Je reste enfermée chez moi, j'ai tout fermé. Il y a 2 ans, j'ai vraiment perdu les tuiles. J'avais là ma porte d'entrée qui bougeait dans tous les sens. Je sentais que le toit, il allait partir. Franchement, j'appréhende un peu pour ce soir.
Les vents vont donc souffler très fort sur le Cap Corse. Jean-Claude Galetti est maire du village de Pietra Corbara. Il a appelé ses habitants à la plus grande prudence.
Lorsqu'il y a des moments comme ça, c'est toujours dangereux de faire des promenades, de partir en voiture. Parce que sur les routes, effectivement, il y a des arbres, des grands arbres. Quelquefois des arbres très hauts qui s'abattent sur les véhicules. Donc les gens savent qu'il ne faut pas s'arrêter, ils restent confinés chez eux.
La préfecture de Haute-Corse a pris plusieurs mesures. Depuis 18h, aucun avion ne peut atterrir ou décoller de Bastia. Et puis demain, les poids lourds n'auront pas le droit de circuler. La vigilance orange pour vent violent devrait prendre fin demain à 21h.
Voilà, prudence. Donc merci Flavien Groyer. Les côtes de la mer du Nord, de la Manche et toute la pointe bretonne restent aussi en vigilance orange ce soir. Risque de vagues, submersion et d'inondation.
Ils sont plus de 3000 à bord d'un paquebot de croisière au Japon, confiné en quarantaine à cause du coronavirus. Déjà plus de 130 cas détectés.
Les témoignages ce soir d'un Français qui fait partie des passagers de cette croisière qui tourne au cauchemar. Écoutez, Michel Vittori, il est bloqué à bord avec son épouse. Il est originaire de Nouvelle-Calédonie.
Nous, avec mon épouse, ça va. On essaye de faire la part des choses. Et puis, de toute façon, on ne veut pas faire autrement que d'accepter ce qui nous arrive, hein, même si c'est difficile. Parce que rester déjà, c'est 6 jours qu'on est dans une petite cabine, sans possibilité de sortir la journée, ça commence à être long. Quoi, hein. Même avec le personnel, on nous apporte à manger par bon service, mais ils n'ont pas le droit de nous parler, ils passent juste les plats, puis c'est tout. Hein. On a le commandant de bord qui nous fait part de la vie un peu à bord. Et puis en plus, on a pas mal de relations extérieures. Nous, on a notre téléphone sous la main, on est tout le temps avec notre famille à nous mettre. Hein. Ben oui, quand même, parce que sinon, je pense qu'on aurait craqué d'ici là. Hein. Nous, le problème, c'est de savoir quand on part. Voilà. Le plus gros problème, c'est ça.
Voilà, témoignage recueilli par Justin Morin et il se dit que la quarantaine pourrait encore durer 10 jours. En Chine, le bilan dépasse désormais les 900 morts. Aujourd'hui, on a vu le président chinois Xi Jinping sortir le visage recouvert d'un masque.
L'actualité à l'étranger maintenant, avec l'Allemagne qui plonge dans la crise politique après l'épisode de la semaine dernière, un président de région élu grâce aux voix de l'extrême droite.
Ouais, effet collatéral, celle qui devait être l'héritière d'Angela Merkel, Annegret tête, Kramp Karrenbauer renonce. Elle ne briguera pas la succession et va quitter la présidence de la CDU. Et puis aux États-Unis, épisode 2 de la primaire démocrate, une semaine après le fiasco de l'Iowa où les résultats très serrés sont toujours contestés. C'est le New Hampshire, État du Nord-Est, qui va voter demain. Et un intrus s'y trouve ce soir, Xavier Yvon, c'est Donald Trump qui vient parader en meeting.
Ah oui, comme il avait fait dans l'Iowa, Donald Trump vient voler la vedette aux démocrates. Comme d'habitude, certains de ses partisans ont campé devant la salle où il va se produire. Depuis son acquittement dans son procès en destitution la semaine dernière, Donald Trump est en pleine démonstration de force et il règle ses comptes. Il a renvoyé deux officiels de son administration qui avaient eu le malheur de témoigner contre lui lors de l'enquête en impeachment. Dehors donc l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne et aussi dehors un lieutenant-colonel décoré qui servait au sein du Conseil de sécurité nationale. Tout le week-end, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer ses limogeages politiques. Chez les républicains, certains avaient même tenté de freiner le président. En vain, Donald Trump fait le ménage et se concentre sur sa réélection. Il est pour l'instant bien aidé par les démocrates qui viennent seulement de déclarer un vainqueur dans l'Iowa une semaine après le vote. C'est donc Pete Buttigieg qui remporte d'un cheveu sur Bernie Sanders, 0,09%. Mais il pourrait encore y avoir des erreurs et le sénateur du Vermont a demandé un recomptage partiel. Les démocrates espèrent ne pas rééditer ce cafouillage demain dans le New Hampshire, où il est vrai, l'organisation du scrutin est moins complexe.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis elle est vraiment sous le feu des projecteurs, l'objet de toute l'attention du monde. C'est toujours Greta Thunberg, la société de production BBC Studio, le géant britannique, annonce une série télévisée documentaire qui portera donc sur la jeune militante suédoise qui bataille pour l'écologie.
Merci beaucoup Sébastien Krebs, de nouvelles infos avec vous dès 19h30. Anissa, on est très vigilant hein, parce que les prochaines heures avec Kira sont annoncées agitées.
Oui, effectivement Nathalie, Kira ne va pas s'arrêter là et c'est sur la Corse qu'on va garder un œil très vigilant puisque le département, les deux départements de la Corse ont été placés en vigilance orange vent fort. Sachez que sur la Haute-Corse, on attend des rafales de vent jusqu'à 200 km/h dans les prochaines heures. Demain matin, ça sera toujours très agité sur la Corse, un peu plus calme sur le Var et les Alpes-Maritimes. Mais cette nuit, il va falloir être très très prudent. Sur le littoral méditerranéen, demain, du Languedoc-Roussillon à la Côte d'Azur, demain matin, le temps est sec avec même de belles éclaircies. Et sur la moitié nord du pays, le temps reste toujours très agité parce que même si une bonne partie de Kira est passée par là, eh bien des averses restent avec du grésil et puis toujours du vent. Il faut savoir que demain sur l'ensemble du pays, le vent va continuer de souffler en moyenne entre 80 et 90 km/h, même sur les grandes villes comme Paris par exemple. Sur les reliefs, toujours du vent et des chutes de neige pour demain. Les températures, 3 à Nancy, 6 à Paris pour le matin, 10 à Toulouse. Dans l'après-midi, nous aurons 8 à 10 dans la moitié nord, 14 dans la moitié sud et 17 à 19 au bord de la Méditerranée.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Nathalie.
Votre invité ce soir.
Aurélien Pradier, secrétaire général de LR et député du Lot. Il travaille beaucoup sur les questions de handicap. Qu'attend-il de la conférence nationale qui se tient demain à l'Elysée? On en parle avec lui.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Jusqu'à 20h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe avec vous Nathalie Lévy et tout de suite place à l'interview politique.
Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, Aurélien Pradier, député du Lot et secrétaire général des Républicains.
Bonsoir Aurélien Pradier.
Bonsoir.
Emmanuel Macron organise demain une conférence nationale du handicap à l'Élysée. Qu'est-ce que vous espérez du chef de l'État ?
J'espère qu'il change ses habitudes. J'espère ne pas avoir un grand spectacle de baratin, de blabla, de paroles et pas d'actes. Vous savez, sur la question du handicap, depuis des années nous nous battons, depuis 3 ans je me bats à l'Assemblée nationale et depuis 3 ans je me fatigue, comme d'autres, de voir qu'entre les paroles et les actes, il y a un monde. Donc si demain cette conférence est là pour mettre en scène Emmanuel Macron et son gouvernement, ça ne servira à rien et la déception sera au rendez-vous. Si c'est pour agir, je le soutiendrai.
Vous redoutez que ce soit de la mise en scène. Est-ce que le fait que ce soit 15 ans, jour pour jour, après la loi Chirac de 2005 sur le handicap, en présence de Claude Chirac, ça fasse partie de la mise en scène ?
Ce sera l'occasion pour Emmanuel Macron de se comparer à plus grand que lui. Et Jacques Chirac, en la matière, était bien plus grand qu'Emmanuel Macron. Mais je voudrais être précis. Voilà 3 années qu'Emmanuel Macron est en responsabilité. On nous avait annoncé que le handicap serait une grande cause de ce gouvernement. Et depuis 3 années, il y a des sujets sur lesquels nous avons non seulement pas avancé, mais régressé.
C'est-à-dire ?
Nous avons encore des milliers d'enfants qui sont sans solution. Depuis 3 ans, Que fait-on pour ces milliers d'enfants?
Ça a diminué pour la dernière rentrée, deux fois moins qu'à la rentrée 2018.
Pas deux fois moins, ça a diminué de quelques unités. Nous avons encore des milliers d'enfants qui sont sans aucune solution dans notre pays. Nous envoyons à l'étranger près de 7000 adultes et enfants en Belgique parce que nous sommes infoutus dans notre pays de les prendre en charge. L'année dernière, je me suis battu auprès du ministre Blanquer pour que les crédits de formation des accompagnants scolaires ne baissent pas. Ils ont baissé ces crédits sous ce gouvernement de 42%. On a perdu 5 millions d'euros pour former les accompagnants. Vous savez, sur des sujets comme le handicap, on n'a pas le droit de bluffer. Et je constate que les paroles sont largement au rendez-vous, mais que les actes ne le sont pas.
Alors, des actes, le chef de l'État doit en annoncer demain. Vous parliez de certains sujets. Par exemple, le chef de l'État va s'engager à ce qu'il y ait 6000 places supplémentaires dans des établissements spécialisés. Pour les personnes que vous évoquez qui, aujourd'hui, parfois n'ont pas le choix et sont obligées d'aller en Belgique, faute de place en France, ça va dans le bon sens.
Mais ça suffira jamais. Au fond, ce que j'observe, c'est que Emmanuel Macron est incapable de faire la révolution du handicap. Ce que Jacques Chirac avait commencé à faire en 2005, ce que chez les Républicains, nous prônons depuis plusieurs mois en travaillant beaucoup sur ce sujet, en faisant d'ailleurs de ce sujet une convention nationale. Le 4 mars est une priorité pour la droite, ça l'a toujours été et ça le sera demain. Il faut une révolution du handicap. Il faut arrêter de penser en termes de places. On pourra toujours ajouter des places.
C'est quand même utile, 6000 places supplémentaires.
Mais on n'en aura jamais assez. Le vrai sujet, c'est de renverser la table, de faire en sorte que l'ensemble du milieu ordinaire puisse accueillir des femmes et des hommes en situation de handicap. Et nous en sommes loin aujourd'hui, y compris dans les écoles de la République. Et tant que nous n'aurons pas une volonté politique extrêmement audacieuse, on continuera à mettre des pansements sur des jambes de bois.
Alors justement, sur les écoles, demain, Emmanuel Macron doit s'engager à ce que plus aucun enfant handicapé n'ait pas de solution pour sa scolarité. Ça, vous devez le soutenir.
Oui, je l'ai entendu il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Nous avons eu déjà 3 conférences interministérielles. 3. Les 3 nous ont juré la même chose. Plus aucun gamin sans solution. J'ai passé une année à faire un tour de France du handicap. Je suis allé dans de très nombreuses écoles. Il y a encore quelques milliers d'enfants sans solution aujourd'hui, en 2020, dans la République française. Et donc, cette promesse-là, elle a été faite depuis 3 ans. Je le redis, tant que nous n'aurons pas engagé une véritable révolution du milieu ordinaire, nous n'y arriverons pas. Et je prenais l'exemple tout à l'heure des accompagnants en milieu scolaire. Comment voulez-vous que nous puissions avancer alors même que le gouvernement a baissé de 42% le budget de formation des accompagnants scolaires? Vous voyez bien qu'il y a un double discours qui est absolument effrayant sur ce sujet.
Et du coup, vous ne croyez pas que ça puisse s'arranger demain?
Écoutez, je l'espère, mais vous savez, moi, les mises en scène, j'ai passé l'âge. Je pense que les Français ont été largement vaccinés sur beaucoup de sujets. Mais je ne fais pas que critiquer, si je puis dire. Nous travaillons depuis 3 années chez les Républicains sur ce sujet. Nous y avons travaillé encore la semaine dernière en réunissant au siège des Républicains des associations, des parents d'élèves pour travailler sur cette question. Le 4 mars prochain, nous aurons une grande convention avec une série de propositions qui, cette fois-ci, seront extrêmement courageuses, à la hauteur de la loi de 2005 portée par Jacques Chirac.
C'est quoi pour vous la mesure phare que vous allez porter au nom des Républicains?
La mesure, c'est de décloisonner totalement le système. Il faut que ce soit dans le milieu ordinaire, dans l'école normale du quartier, que des enfants en situation de handicap puissent être scolarisés. Pour cela, il faut créer un vrai métier pour les accompagnants. Pour cela, il faut que tout le médico-social réinvestisse le champ ordinaire et ne se contente pas seulement d'être dans les établissements spécialisés. Voilà une vraie révolution qu'il nous faut engager. Mais pour ça, il faut avoir un audace fort et c'est ce que nous voulons porter chez les Républicains.
Alors, ce week-end, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a relancé un débat, une question tabou autour des assistants sexuels pour les personnes handicapées. Elle a saisi ce week-end le comité d'éthique qui avait dit non une première fois en 2012. Vous, chez les Républicains, est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à ce qu'il puisse y avoir des assistants sexuels pour les personnes en situation de handicap?
C'est un sujet qui mérite d'être réouvert. La loi de 2005 redonne des droits aux personnes en situation de handicap, y compris le droit au plaisir. Au plaisir divers et variés, et celui de la sexualité fait partie de la vie quotidienne pour chacune et chacun d'entre nous. Il n'y a pas de raison qu'une différence, qu'une forme de handicap l'empêche. Ça pose une véritable question éthique, et c'est pour ça qu'il ne faut pas la prendre par-dessus la jambe. Il faut prendre le temps d'y réfléchir, y compris pour que les personnes en situation de handicap ne se retrouvent pas dans des situations de fragilité affective. Il ne s'agit pas qu'on les instrumentalise.
C'était ce qu'avait souligné le comité d'éthique en 2012.
Et c'est nécessaire de douter sur cette question. Vous savez, moi, j'ai horreur de ces politiques qui assènent des vérités, qui utilisent des sujets importants comme des gadgets. Je pense que c'est un sujet important. Je dis à la secrétaire d'État que je suis disposé à travailler sur cette question avec elle. Je lui dis aussi que ça ne doit pas être le totem qui cache la forêt. tout le reste du sujet, qui est l'inclusion dans la vie de nos personnes en situation de handicap.
En tout cas, ce n'est pas forcément un tabou pour la droite, cette question aujourd'hui.
Non, ça n'est pas un tabou. Et d'ailleurs, Jacques Chirac avait ouvert le chemin avec cette loi majeure de 2005. Vous savez, la droite républicaine a toujours été précurseur sur les questions de handicap. On l'a peut-être un peu oublié, mais nous sommes en train de réinvestir ce champ.
Il y avait trois lois sous Jacques Chirac quand il était Premier ministre et puis quand il était chef
de l'État. Tout à fait. Le général de Gaulle a porté cette ambition. Georges Pompidou aussi. Nous sommes nombreux chez les Républicains à le faire. La droite républicaine, demain, parce que parler du handicap, c'est parler de la vision qu'on a de la société. La droite républicaine a des choses à dire sur ce sujet. Elle l'a toujours fait, elle continuera à le faire.
Alors parlons d'un autre sujet, Aurélien Pradier, les retraites. La commission spéciale retraite où vous siégez n'aura vraisemblablement pas terminé ses travaux d'ici demain soir. Vous aurez travaillé pour rien à cause des 19 000 amendements des Insoumis.
Évidemment, parce que le gouvernement a souhaité que nous travaillions pour rien. Voilà des heures que nous passons à discuter sur des amendements dont tout le monde sait, le gouvernement le premier, que demain tout ça tombera au fond du sac et que nous repartirons sur le texte initial. Il faut que nos concitoyens comprennent. On nous fait travailler en commission, sachant même que cette commission n'aboutira pas. C'est une mise en scène insupportable pour la démocratie.
Mais vous avez joué le jeu en même temps.
C'est pas un jeu, moi je suis député de la nation, je siège dans une commission et donc j'espérais simplement que le gouvernement arrête de prendre les parlementaires pour des imbéciles comme il prend les Français pour des imbéciles.
Les mots sont forts. Tout dernier mot sur cette question des retraites. 140 personnalités de gauche demandent un référendum. Vous aussi, vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous soutenez cette demande de référendum?
Mais un référendum sur quoi?
Sur la réforme des retraites.
Un référendum sur la réforme des retraites. Eh bien, je propose demain un référendum sur la pluie en décembre et le soleil en plein été. Enfin, c'est grotesque. Un référendum sur la réforme des retraites,
ça veut rien dire.
Mais on pose une question claire pour avoir une réponse claire. La réforme des retraites, vous pouvez mal la faire ou vous pouvez bien la faire. Elle peut être juste ou elle peut être injuste. Poser la question sur la réforme des retraites elle-même n'a pas de sens. Quelle réforme de retraite? C'est tout le sujet d'ailleurs.
Celle du gouvernement, j'imagine que quand l'opposition demande ça, c'est sur celle du gouvernement.
Sur celle du gouvernement, la question doit se traiter par les parlementaires. C'est à nous de rentrer dans les détails. C'est un sujet extrêmement complexe qui ne peut pas être tranché par un oui ou par un non, mais qui devrait l'être par le débat parlementaire s'il était plus respecté que cela.
Merci beaucoup Aurélien Pradier d'avoir été mon invité.
Europe 1. À suivre Nathalie Lévy. À 19h30, restez avec nous. Cette question, peut-on devenir notre propre médecin? Et la réponse, elle nous sera signée du docteur Frédéric Salman qui vient nous rejoindre dans ce studio. On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. C'est le titre de son nouvel ouvrage chez Plomb. Stress, sommeil, hygiène, poids, tout y passe. Tous les conseils à ne pas manquer, c'est sur Europe 1.
Et vous pouvez lui poser toutes vos questions au docteur Salman. N'hésitez pas, ça se passe dès maintenant au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec tous les jours avant 19h30. Un regard sur demain, puisque Europe 1 regarde le monde changer avec un temps d'avance, Nathalie.
Et oui, demain, ce sera le handicap à l'honneur sur notre antenne et cette conférence autour d'Emmanuel Macron, initiée par Emmanuel Macron. Bonsoir Olivier Savin.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue dans ce studio. C'est à 9h que cela va commencer à l'Élysée.
Oui, alors c'est une conférence qui va réunir près de 500 personnes pour concrétiser un certain nombre de mesures qui ont été prises par le passé mais qui ne se sont pas toutes encore traduites dans les faits. Alors c'est pas un hasard si elle a lieu demain 11 février. Il y a exactement 15 ans, le 11 février 2005, était promulguée la loi handicap à l'initiative de Jacques Chirac, loi considérée comme fondatrice pour la reconnaissance des personnes handicapées dans la société. Et demain, la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, interviendra pour rappeler l'ambition qui avait conduit à cette loi.
Alors, quel est le but de ce grand raout qu'on racontera toute la journée sur notre antenne?
Eh bien, il y a plusieurs grands chantiers qui vont être impulsés. D'abord, permettre aux personnes handicapées d'avoir une vie comme les autres, et ça, dès l'école. Alors, par exemple, à la rentrée prochaine, plus aucun enfant handicapé ne devrait se retrouver sans solution scolaire. Deuxième grand chantier, augmenter le nombre de places d'hébergement en France, pour limiter notamment la migration en Belgique. Aujourd'hui, il faut savoir, 8000 ressortissants français handicapés sont pris en charge de l'autre côté de la frontière, faute de place en France. Et puis, le troisième grand chantier, c'est rendre plus efficace l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles. La loi de 2005 a créé les maisons départementales du handicap, dont l'accompagnement est la mission. Sauf que, d'un département à l'autre, les délais de réponse varient de 2 à 10 mois. Et l'objectif, eh bien, c'est de tendre partout vers un délai maximum de 3 mois.
Merci beaucoup Olivier Samin. Et on entendait le républicain Aurélien Pradier chez Aurélie Arbemont nous dire il y a quelques minutes qu'il espérait que ce ne soit pas que de la communication cette grand-messe. On en parlera dès demain dans la matinale d'Europe 1. Journée spéciale avec invité, témoignage, reportage pour porter un regard nouveau sur le handicap. Nous dès 18h20, grand forum spécial jusqu'à 19h et vous au 39 21. Merci Olivier Samin.
Demain dans le monde nous conduit ce soir au Mexique. Tout à fait autre chose avec vous, Didier François. Bonsoir.
Bonsoir.
Et ce chiffre qui fait froid dans le dos, pour l'année 2019, ce ne sont pas moins de 35 000 personnes assassinées dans ce qui est devenu une véritable guerre civile entre l'État mexicain et les cartels de la drogue.
Oui, avec des niveaux de pertes comparables à ceux de la Syrie, puisque sur les 12 dernières années, le ministère mexicain de l'Intérieur a recensé 275 000 morts directement liés aux affrontements avec les cartels. Quand le bilan des combats en Syrie tourne autour de 370 000 morts, c'est bien ça,
ouais, c'est ça.
En 8 ans, ce qui est évidemment plus élevé, mais pour un conflit où se font face des armées avec des armes conventionnelles, lourdes, de l'artillerie, de l'aviation. Donc vous imaginez le niveau de violence qui frappe le Mexique, 35 000 morts. Chaque année, ça fait quand même 95 assassinats par jour. C'est une personne tuée toutes les 4 heures, c'est énorme.
Ah oui, c'est édifiant. Alors surtout, malgré l'engagement de l'armée aux côtés de la police et de la garde nationale, le gouvernement mexicain est incapable apparemment de mettre au pas les cartels.
Oui, mais parce qu'ils sont extrêmement puissants. Ils ont en fait à leurs mains de véritables petites milices, pour certains extrêmement bien équipées et bien entraînées. On l'a vu au mois d'octobre dernier, la garde nationale avait réussi à arrêter dans son fief le fils d'El Chapo, le grand chef du cartel de Sinaloa. Des dizaines de sicarios ont attaqué la caserne de la ville où il était retenu avec des 4x4 armés de mitrailleuses lourdes, et les autorités ont été obligées de le relâcher. Il faut comprendre que les revenus du trafic de drogue sont estimés à plus de 30 milliards de dollars par an. C'est le budget français de la défense. En termes de produit intérieur brut, si les cartels étaient un État, ils se situeraient au 21e rang mondial des PIB, sachant qu'il y a 194 pays membres de l'ONU et que le Mexique se place au 14e rang en termes d'économie.
Voilà, l'Amérique latine, la région la plus violente du monde. Merci beaucoup Didier François. Théophile Cossa, demain dans nos vies avec vous. Alors on y a du mal à le croire, un nouveau médicament va être testé pour la première fois sur l'homme, un médicament créé par l'intelligence artificielle.
Oui, le DSP-1181, une nouvelle molécule destinée à lutter contre les troubles obsessionnels compulsifs, vous savez, les TOC. Elle a été développée par une start-up britannique et un labo pharmaceutique japonais grâce à l'intelligence artificielle, et elle sera testée sur des patients au Japon dès le mois prochain.
C'est un robot qui a inventé le médicament là, vraiment ?
Alors non, en fait, les chercheurs se sont appuyés sur l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Vous savez, développer un nouveau médicament, c'est un processus très long, 5 ans environ avant qu'il ne soit testé sur des humains. Il faut essayer plein de différents types de molécules pour trouver la bonne combinaison. C'est là justement qu'intervient l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur les précédents tests et les bases de données scientifiques. Elle va, grâce à un algorithme, accélérer considérablement le travail des chercheurs. Résultat, ce tout nouveau médicament n'a pas été développé en 5 ans, mais en à peine une année.
Et puis, incroyable, mais fiable.
C'est ce que devra déterminer la phase de test au Japon. En tout cas, la start-up britannique à l'origine du projet est confiante. Elle travaille déjà sur un traitement contre le cancer, toujours grâce à l'intelligence artificielle. Une révolution pour l'industrie pharmaceutique. Le recours aux algorithmes pourrait réduire drastiquement le coût d'élaboration des médicaments. Reste juste à faire avaler la pilule aux patients.
Bien joué.
Ouais, ouais. Ah, il est bon.
Ouais, normalement. Merci beaucoup, Théophile Cossa.
Europe 1.
À suivre dans la prochaine demi-heure de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Le rappel des titres est juste après 19h30. Un médecin dans ce studio pour nous dire qu'on peut devenir en quelque sorte nous-mêmes médecins. Et puis, ne me quitte pas, Nina Simone, la grande moi, Nina Simone, à l'honneur ce soir sur Europe 1. Pièce de théâtre, on vous en dit plus.
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévis, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Et votre grand journal du soir sur Europe 1, il est 19h30. Nathalie Lévy. Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Toujours 40 000 foyers privés de courant, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne et dans l'Est. La tempête Kira laisse derrière elle des dégâts matériels. Ce soir, les vents violents frappent la Corse et les Alpes-Maritimes. 17 interpellations après l'intrusion de militants écologistes au siège parisien de BlackRock, acteur américain de la finance. Des dégradations ont été commises. Désormais, 5 syndicats appellent à une journée morte dans les transports lundi prochain, le 17 février, 4 à la RATP et 1 à la SNCF, Force Ouvrière. Le nouveau patron de Renault, encore mieux payé que Carlos Ghosn, 1 300 000 euros de fixe annuel pour Luca de Meo, mais jusqu'à 6 millions selon les performances. Et puis cette avancée sur la fin de vie, les médecins généralistes pourront bientôt se procurer et administrer eux-mêmes un puissant sédatif, le midazolam, aux patients qu'ils prennent en charge à domicile.
Merci beaucoup Sébastien, l'info revient dès demain 18h avec vous Anissa. 13 départements en vigilance orange.
Oui effectivement, nous avons 8 départements placés en vigilance orange, vague submersion sur les côtes bretonnes et normandes. Nous avons 2 départements, l'Eure et la Seine-Maritime, placés en vigilance orange crue et inondation, il a beaucoup plu. Et puis les 2 départements de la Corse et les Alpes-Maritimes sont placés en vigilance orange vent fort, car c'est effectivement sur l'île de Beauté que la tempête Ciara risque de faire de gros dégâts dans les prochaines heures. On attend des coups de vent jusqu'à 200 km/h cette nuit et demain matin. Demain matin, ça va se calmer sur le Var et les Alpes-Maritimes. La journée restera toujours très grise demain avec des coups de vent sur l'ensemble du pays, hein, beaucoup sur les côtes bretonnes, etc. Mais ça se calme avec 80 km/h en moyenne. Et puis dans l'après-midi, demain, le temps redevient sec sur le littoral méditerranéen. Les températures, 4 à 17 degrés demain après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et on va prendre soin de notre corps, de notre santé. L'hiver est encore là et tous les bons plans à noter, ils sont signés du docteur Frédéric Salmane qui est votre invité ce soir, Nathalie.
Bonsoir docteur Frédéric Salmane.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes médecin, cardiologue, nutritionniste à l'hôpital Georges Pompidou. Vous signez « On n'est jamais mieux soigné que par soi-même » chez Plomb, aux éditions Plomb, paru il y a quelques jours. La santé sans tabou. Vous faites du tort en quelque sorte, docteur Salmane. Oui. C'est-à-dire que vous nous donnez des clés pour plus venir vous voir dans les cabinets.
Ah oui, j'ai envie d'être au chômage finalement et de me reposer toute la journée. Mais vous savez, la bonne médecine, c'est la prévention tout simplement.
C'est ça.
Éviter d'être malade pour rien.
Exactement. La prévention, c'est vraiment le mot-clé de ce livre, dans tous les domaines hein, d'ailleurs, et à tout âge, si j'ose dire. Vous pratiquez les conseils que vous écrivez dans votre livre ?
Tout ce que j'écris, je le fais. Et vous savez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
Ah, bah allons-y.
On a découvert l'élixir de jeunesse.
Ah, alors allons-y. C'est quoi ? Commençons par ça.
Et ça fait longtemps qu'on en parlait, dans toutes les religions du monde. Un prix Nobel japonais il y a 2 ans, jusqu'à une étude fin décembre 2019. En fait, c'est le jeûne séquentiel.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est ? Ça provoque une baisse de l'inflammation qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. Ça booste l'immunité qui élimine les cellules cancéreuses, les toxiques, les virus. Ça augmente l'hormone de croissance anti-vieillissement jusqu'à 3000%. Et une autre hormone qui fait que la BDNF, qui fait que le cerveau fonctionne au quart de tour, très vite, une mémoire d'enfer. Et en plus, on est de bonne humeur.
Mais alors, attendez, précisez quand même pour les auditeurs et pour nous-mêmes, hein, si on veut observer ce jeûne séquentiel, on boit quand même.
Oui,
on boit et voilà, ça se construit comment exactement ce jeûne ?
En fait, le jeûne séquentiel, c'est très technique. Il y a un vrai mode d'emploi, ouais. C'est pour ça que j'ai fait ça.
Faut pas faire n'importe quoi. Effectivement.
Donc, premier point, ça commence à fonctionner à partir de 14h, puis par palier, comme en plongée sous-marine, on monte par 16, 18, 20. En fait, si vous laissez comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Manger, c'est pas rien, c'est faire travailler le foie, les reins, des hormones, des enzymes, c'est énorme.
Ouais. Vous dites, si vous suivez le jeûne séquentiel et réussissez à passer de 3 à 2 repas, il restera 10 heures pour vous alimenter. Ensuite, on est comme ça progressivement.
Alors, c'est progressif. Il faut beaucoup boire de l'eau, des tisanes, du thé pendant. Bien s'hydrater, c'est essentiel. C'est ça. Il y a ce qu'on mange juste après pour prolonger l'effet anti-inflammatoire. Oui. Des aliments, par exemple, il y en a plein, mais comme l'avocat.
Oui, on le brise pas n'importe comment, ce jeûne. Hein.
C'est vrai. Mais quand on réussit à faire ça, je peux vous dire que le teint est plus frais, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. On lutte contre notre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Vous savez, c'est intéressant. Toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parle du jeûne.
Mais oui, mais pourquoi alors, docteur, on nous a toujours indiqué qu'il fallait faire 3 à 4 repas par jour, que c'était la règle, en dînant plus léger, etc. Pourquoi ?
Bah, c'est la question qu'on se pose.
Bah,
nos ancêtres étaient à 1 ou 2 repas.
Bah oui.
On a toujours entendu dire que sauter des repas faisait grossir aussi.
Il y a eu toute une communication. Et puis, fin décembre, une étude est sortie dans le New England qui montre que non, pas du tout. En fait, si vous laissez... Le corps a besoin de se reposer. Il faut écouter avec bon sens les signaux de son corps pour se protéger de toutes ces maladies. On se met à table si on a faim, tout simplement.
Ah oui, c'est ça. Donc, s'isoler, sauter un repas, vous nous y engagez, faire pénitence. Hein, c'est comme ça aussi que vous l'indiquez dans le livre. Il faut le faire. Il faut changer finalement ses habitudes.
Vous savez, l'important n'est pas ce qu'on mange, mais quand on mange. Ça, c'est très important à connaître. Ouais.
Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on commence. Parce qu'il y a même des voyages maintenant qui sont organisés comme ça autour du jeûne. Des sorties, des séjours détox. C'est vraiment une tendance.
C'est important parce que, sauf s'il n'y a pas de contre-indication d'un médecin traitant, c'est pas pour les enfants ni les femmes enceintes, mais d'un seul coup, vous allez sentir que vous avez une énergie incroyable. Écoutez avec bon sens les signaux de votre corps. C'est une faction. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de coronavirus. Ben, monter son immunité, ça vaut le coup aussi.
J'avais justement un chercheur de l'Institut Pasteur en début d'édition sur le coronavirus. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce virus ?
Ben, écoutez, ça nous incite à une chose, c'est à renforcer nos règles d'hygiène aussi, c'est important. Vous savez, ce virus peut tenir le coup sur une surface pendant 9 jours, c'est énorme. Et comme on met les mains à la bouche 2 fois par heure, il faut connaître des tas de petits réflexes d'hygiène très simple pour éviter de tomber malade.
Donc le masque, par exemple, ce masque qu'on commence à voir arboré un peu partout, ça sert à quelque chose ?
Pour protéger les autres, protéger c'est les utile, autres, oui. Pour éviter de contaminer.
Et se protéger soi.
Le liquide hydroalcoolique, c'est efficace, ça ?
Oui, il y a même des moyens très simples, il y en a des centaines. Par exemple, vous êtes au restaurant, mettez un peu de citron sur vos mains, et bien voilà, elles sont toutes propres. Très surtout, bien. Ça évite de manipuler des tas de choses.
On se retrouve, docteur Salman, dans un tout petit instant. On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. La santé sans tabou, c'est aux éditions Plon.
Europe 1, il est 19h38. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et votre invitée. Nathalie, vous recevez le docteur Frédéric Salman. Il vient de publier chez Plon son nouveau livre « On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. La santé sans tabou avec beaucoup d'astuces pour allonger nos vies. »
Exactement, des conseils pour être en bonne santé, à l'écoute de son corps, les bons réflexes. Il y a tout dans ce livre aux éditions Plon. Dites-moi, docteur Frédéric Salman, vous donnez ce conseil. Manger un gâteau en début du repas permet de maigrir. C'est peut-être la clé, mais attendez, on va tous l'adopter. Vous vous rendez compte là que vous bouleversez tellement vos habitudes ?
C'est incroyable. En fait, 2 études américaines ont été cherchées en zone interdite, ce qui fait maigrir en mangeant des gâteaux.
Mais c'est le rêve absolu.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on s'est aperçu que quand on fait un régime, on serre la vis. Résultat des courses, la leptine, l'hormone de la satiété, elle tombe à la faim. Et en plus, le métabolisme se ralentit comme si on devait garder notre graisse. Eh bien, ils se sont aperçus qu'en mangeant un gâteau, la leptine, l'hormone de la satiété monte et en plus, le métabolisme s'accélère.
Quel genre de gâteau ? Donc, on mange moins, on est d'accord ? Et il ne nous fait pas profit comme si on le mangeait en fin de repas ?
Alors, quel genre de gâteau ? Dans le livre, je donne 2 recettes. Un gâteau au chocolat, un gâteau aux plantes. C'est vrai qu'ils font 90 calories. D'accord. Pas n'importe quel gâteau.
Pas des religieux, c'est ça.
Et ces gâteaux-là, quand on les prend, on a une satiété heureuse, on n'a pas faim. Si on on le prend en début de repas, c'est encore plus
d'accord,
fort l'effet.
Donc on a compris l'effet de satiété, mais il nous fait moins profit que si on le mangeait en fin de repas, quand même.
Ah oui, non, c'est pour une autre raison. C'est que quand on prend le gâteau en début de repas, ça active ce qu'on appelle la glucokinase, hormone puissante de la satiété.
Donc on n'a plus faim après.
C'est comme si la fête est finie avant qu'elle commence.
D'accord. Bon, très bien. Donc, je vais démarrer matin, midi et soir. Je vais démarrer ce soir. Donc,
Vous verrez, la recette est facile. En 3 minutes, vous le faites. D'accord. Et vous verrez, vous n'avez plus faim du tout.
Alors, vous donnez aussi des astuces très pratico-pratiques. On aime beaucoup ça pour être aidé dans une entreprise d'amaigrissement. Oui. Par exemple, dans sa cuisine, ça a l'air d'être du bon sens, mais on ne le fait pas. Et là, vous le dites clairement.
Une autre étude a montré que si on est dans une cuisine qui est un vrai fouillis, tout simplement, on mange beaucoup plus que dans une cuisine rangée. C'est comme il y a une eau, vous mettez un peu d'agar-agar dedans, c'est une poudre naturelle. Vous buvez un verre, vous avez l'estomac plein, vous avez l'impression que vous sortez du repas. Ah, c'est un tas de petits trucs qui marchent au quart de tour. C'est des coupe-faim naturels puissants pour avoir un poids mince. Et c'est important parce que 30% de calories en moins, c'est 20% de gras en plus.
Bien sûr. Alors, on va parler de la marche dans un petit instant. Agathe nous appelle aussi ce soir. Bonsoir Agathe, depuis région Loire-Atlantique. 19 ans, toute jeune Agathe qui nous appelle et qui pose une question, docteur. Bonsoir à vous.
Bonsoir Frédéric. Alors j'avais une question, j'ai souvent mal à la tête et je voulais savoir s'il y avait un remède plus naturel que pour agir contre les maux de tête que les cachets d'aspirine par exemple.
Alors si vous avez souvent mal à la tête, il faut voir votre médecin traitant parce qu'il y a plein de causes qui peuvent donner mal à la tête.
Oui, même les yeux par
ça
exemple.
Ça peut être les yeux, ça peut être les sinus, ça peut être la circulation. Ça peut être parfois l'hypertension. Moi, j'ai vu encore hier un patient qui avait mal à la tête, il avait de l'hypertension. Donc, avant tout, une bonne consultation chez votre médecin pour chercher pourquoi vous avez mal à la tête.
Bien sûr. Donc, explorer d'abord avant de se traiter n'importe comment ou de s'automédiquer.
Oui, il faut prendre le mal de tête au sérieux, connaître la cause. Et ensuite, en général, parfois, simplement, c'est une mauvaise position de la colonne cervicale.
Bon, alors, docteur Salman, 10 000 pas. Il faut faire 10 000 pas. Pourquoi 10 000 ? Allons-y.
Alors, parce que
on va s'amuser, on va pas s'amuser à compter, quand même.
J'ai cherché l'étude qui correspondait, je ne l'ai pas trouvée. Ah oui. Et j'ai vu que c'est en fait une société commerciale au moment des Jeux Olympiques au Japon qui avait eu l'idée de lancer des podomètres en disant « il faut faire 10 000 pas ». En fait, à partir de 4 400 pas, on a déjà un bénéfice.
D'accord.
Mais vous savez ce qui compte, en deux mots, 30 minutes d'exercice physique par jour, sans vous arrêter, baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Oui. Les 20 premières minutes, ça ne sert à rien. On brûle du sucre, après on brûle des mauvaises graisses et on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier.
Ah ouais.
Mais attention, ça ne dure que 24 heures.
Ah oui, donc il faut commencer.
Les gens qui me disent, mais moi je fais du sport le week-end, je leur dis, vous lavez les dents que le week-end quand vous y êtes.
Bah voyons.
Il y en a, oui.
Malheureusement, on ne les connaît pas. Avec 4400 pas, en tout cas, vous avez déjà tout bon. C'est ce que vous dites dans votre livre, docteur Salman. Il y a aussi beaucoup de sujets médicaux qui restent tabous. On va en citer un. Typiquement, se curer le nez. Pardon d'être un peu trivial, mais finalement, c'est très basique. Tout le monde le fait. Et ça a du bon.
Ben, ça a du bon et du mauvais. Il y a une règle, c'est quand on veut faire ce geste normal, se laver les mains avant. Parce qu'on va mettre des staphylocoques, des tas de choses qu'on va mettre de l'extérieur vers l'intérieur, sur une muqueuse fragile, et ce n'est pas bon du tout. Donc se laver les mains avant et après, et ne jamais vous tirer les poils du nez. Ça, c'est dangereux, ça peut provoquer des infections.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Frédéric Salman. En tout cas, ces conseils, ces pistes, ces réflexes qu'il faut avoir, donc se procurer. On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. C'est une bible qu'il faut garder sur sa table de chevet. C'est aux éditions Plomb. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite du programme, Nathalie Lévy, c'est en musique.
Oui, en musique. Nina Simone à l'honneur sur Europe 1. Sa vie, son œuvre incroyable. On en parle dans un instant avec David Jezelson, auteur d'une pièce de théâtre sur la vie de l'artiste. Elle est en tournée, cette pièce, dans toute la France.
Et vous pouvez nous dire également ce que représente Nina Simone pour vous. N'hésitez pas, ça se passe au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, et vous le savez, chaque jour avant 20h, on parle culture, on va parler musique ce soir. La chanteuse Nina Simone à l'honneur sur Europe 1. Pour en parler, Nathalie Lévy, vous recevez David Jezelson. Il est acteur, auteur et metteur en scène pour sa pièce Le silence et la peur, consacrée à la vie de l'artiste.
Bonsoir David Jezelson.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio.
Merci.
Cette dernière pièce, effectivement, qui revient sur la vie de Nina Simone, sa carrière depuis ses 4 ans, quand elle jouait du piano dans l'église protestante où travaillait sa mère jusqu'à la fin de sa vie en France. Je vous ai posé la question de votre âge en off, je vais le dire, vous permettez.
Allez-y,
vous
n'avez
pas 40 ans, vous avez 39 ans, David Jezelson. Comment vous êtes tombé amoureux de Nina Simone pour comme ça, c'est pas du tout votre génération?
Non, alors j'ai découvert Nina Simone assez jeune, adolescent, grâce à mon père, qui est un homme qui me faisait écouter beaucoup de jazz, de musique nord-américaine à partir de l'âge de 15 ans. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une professeure d'histoire extraordinaire en seconde. Et on a étudié à l'époque les mouvements de lutte pour les droits civiques des Noirs américains dans les années 60. Et ça a été le début pour moi d'une longue passion sur l'histoire afro-américaine et sur les musiques nord-américaines.
Alors Nina Simone, c'était la personnalité, la femme emblématique qui pouvait justement être mise en scène dans ce biopic et raconter l'Amérique, raconter l'histoire, raconter la musique.
Alors, au-delà du biopic, c'est un biopic, c'est très relativement un biopic, c'est pas vraiment un biopic, c'est plus un spectacle qui va évidemment raconter la vie de Nina Simone et au-delà de sa vie, son histoire et comment est-ce qu'elle s'inscrit dans la grande histoire, dans l'histoire afro-américaine et donc dans l'histoire des colonisations européennes des Amériques du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Donc, raconter aussi d'où elle vient, le génocide des Amérindiens,
c'est ça.
Le commerce triangulaire.
Parce que votre pièce, effectivement, elle est très riche. Elle s'appuie effectivement sur des documents historiques. Il y a des images d'archives pour expliquer 4 siècles d'esclavage aux États-Unis. Il fallait tout lier, c'était important pour vous de tout ramener à la grande histoire.
Oui, ça me semblait essentiel parce que surtout si aujourd'hui en France, on s'intéresse à Nina Simone, on est obligé, je pense qu'on a le devoir de s'intéresser à son histoire.
Mais il y a une part de fiction, une part d'histoire avec un grand H.
Énormément. Ouais. C'est vraiment un dialogue entre la petite histoire histoire et la grande histoire. La petite histoire, si tant est qu'on puisse dire que Nina Simone a une petite histoire, non, elle est déjà grande, voilà, c'est son histoire, sa vie intime, les récits qu'elle en a fait, qu'on peut trouver dans toutes les biographies qu'on trouve, et son autobiographie, et comment est-ce que son histoire, elle, est chevillée à la grande histoire. Et donc, c'est un spectacle où il y aura des allers-retours.
C'est entre... ça, une forme d'interactivité, en fait, entre les deux. C'est le troisième spectacle que vous signez.
Quatrième,
ouais. D'accord. Quatrième spectacle. À chaque fois, vous êtes comme ça sur ce pont entre la grande histoire et la plus petite.
Oui, c'est ça qui m'intéresse, c'est voir comment, chez un individu, l'histoire fait quelque chose. Comment l'histoire percute un individu et, à son tour, un individu peut percuter l'histoire. Ouais. Je pense que... Voilà.
Nina Simone, la chanteuse, la personne arrière-petite-fille d'une Cherokee, survivante du génocide des Amérindiens, mariée à un esclave noir africain, c'est 4 siècles, elle seule, d'histoire coloniale.
C'est ça, elle vient au monde en 1933, elle n'a rien demandé à personne, et dans le sang, elle a ça, elle a l'histoire d'un génocide, des traites négrières, entre 12 et 17 millions d'Africains, kidnappés, déportés, hommes, femmes et enfants, entre le 15e et le 19e siècle par les Européens, et elle arrive en 1933, en Caroline du Nord, dans un état ségrégué du sud des États-Unis, et elle est, comme tous les Noirs américains à cette époque-là, victime de cette ségrégation, et voilà. Comment on fait pour se remettre des cicatrices de l'histoire? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec cet héritage-là?
On l'écoute, Nina Simone. Quelle est la part de musique dans votre spectacle?
Très peu, il y a très peu de musique.
C'est un peu le paradoxe, non?
Je pense qu'il n'y aura rien de mieux que Nina Simone pour être Nina Simone et pour entendre du Nina Simone. Alors il faudrait mettre du Nina Simone, donc on en met
un
petit
peu. Oui, c'est ça, vous en mettez un petit peu, c'est pour ça que j'ai dit ça.
Un petit peu, bien sûr, mais c'est toujours... Comment dire? Si on veut écouter du Nina Simone, alors on écoute un disque et c'est très bien. On peut l'écouter à la maison. Ouais. Et je pense que nous, l'équipe qu'on est, je pense que sur un plateau de théâtre, on ne sera jamais à la hauteur de ce qu'elle est, de sa musique, de l'artiste qu'elle est. Mais on évoque et on travaille avec ce qu'est sa musique, c'est-à-dire un mélange de musique classique, de jazz, de gospel, de negro spirituals. Et on fait un travail, notamment avec le créateur son Loïc Leroux, qui fait un travail énorme de remix, de réadaptation autour des morceaux de Nina Simone.
On écoute un extrait, s'il vous plaît bien.
Are you going to tell anybody who has not been in love how it feels to be in love? You cannot do it to save your life.
Il y avait déjà eu avec vous, David Jesselson, En route Kaddish. Évidemment, le dialogue, conflit israélo-palestinien, la vie de votre grand-père, juif lituanien parti dans les années 30 en Israël avec le grand rêve de construire un pays. Là, qu'est-ce que vous diriez de l'écho de la vie de Nina Simone dans l'actualité américaine et mondiale?
Je pense que c'est majeur. Aujourd'hui, tous les mouvements noirs américains qui continuent d'exister, comme Black Lives Matter, que ce soit en France ou aux États-Unis, sont importants. On est dans un moment où les conséquences de ce qu'a été un pays qui a esclavagisé des millions de personnes, ces conséquences-là sont encore très vivaces aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde. On est, nous, occidentaux, européens, aussi une société qui est construite sur le dos d'hommes et de femmes dont on a exploité la force de travail contre leur volonté. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il est nécessaire, important, fondamental d'en parler. Il y a un devoir de mémoire qui, je pense, est absolument indispensable,
incontournable. Il y a quand même une difficulté supplémentaire dans ce spectacle-là. Il y a 2 langues dans le spectacle, c'est pas anodin, avec des acteurs français et des acteurs américains.
Oui, absolument.
Un britannique aussi.
Voilà, exactement. Ça m'a semblé essentiel.
C'est compliqué, ça ?
C'est en même temps passionnant. Ouais. C'est compliqué, donc c'est génial. Sinon, on s'ennuie, je pense, si c'est trop facile et trop simple. Mais l'idée, c'était ça. C'était pour raconter cette histoire afro-américaine qui n'est pas la mienne. Moi, je suis français. Mmh. Je suis né à Clamart. Voilà, c'est pas
bien,
mon histoire.
Voilà.
Mais comment faire ? Et comment faire pour être légitime à la raconter ? Je pense que cette légitimité, elle va pas de soi, elle se construit. Et donc, on a décidé avec cette équipe, cette communauté afro-américaine et anglaise, d'écrire et de construire cette histoire ensemble. C'est l'histoire d'une communauté qui se retrouvent autour de la figure d'Ina Simone pour raconter cette histoire. Et ensemble, on décide de conquérir notre légitimité pour ce faire.
Alors, c'est parti du Centre dramatique de Lorient, hein, c'est ça ?
Absolument, on a créé le spectacle.
Exactement. Et maintenant, c'est une tournée.
C'est une tournée
qui fonctionne très bien.
Qui joue
une belle
énormément
tournée.
En France. On va jouer notamment Tête des quartiers d'Ivry du 27 février au 8 mars. Il faut venir nous voir. Et à Pau, à Arles, à Boulazac, à Saint-Valery-en-Caux, ouais. Voilà, dans beaucoup d'endroits. Et j'espère qu'on retournera à New York où le projet ouais. est né, puisqu'on a travaillé avec la Harlem Stage, avec les services culturels dans l'ambassade de France qui nous ont aidés à faire ça.
Merci beaucoup David Gesselson. L'album d'ailleurs de Nina Simone qu'elle avait enregistré à Paris ressortira début avril, comme ça on boucle la boucle. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir sur Europe 1. Je suis sûre que vous avez été très attentive, Émilie Mazoyer.
Mais salut, oui, à vous. Salut Nina Simone, mais quel bonheur et quelle tristesse aussi, parce qu'elle avait dit, elle en fait elle voulait faire du piano classique. Et à cause du racisme, elle n'a pas pu devenir pianiste classique. Et elle a dit, une fois en interview, si j'avais été la première femme noire pianiste classique, j'aurais sans doute été plus heureuse.
Et voilà.
Ah oui, non, c'est terrible. Ah, bravo de parler d'elle, j'adore.
Ça s'appelle Le silence et la peur. Et vous, votre programme ce soir ?
Ah, moi ce soir, on va rigoler et refaire le bilan avec les Negmarons.
Oh, trop bien.
20 ans que cette chanson est dans nos playlists. Et donc ils refont le bilan 20 ans plus tard, les Negmarons, avec une grande tournée partout en France. Et ils vont venir refaire le bilan avec nous.
Oh, ça sent la crise d'ado là chez Émilie Mazoyer. Merci beaucoup Émilie Mazoyer. On est branché avec vous dans quelques instants. On se retrouve ici même demain soir 18h-20h pour un nouveau grand journal du soir. Merci de votre fidélité. Ce sera un forum spécial dès 18h20 consacré au handicap puisque journée nationale. Merci d'être avec nous. Restez branchés à Europe 1. Isabelle Millet pour la suite de l'information. Et très belle soirée en écoutant Le Monde Changer.
À demain.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.